Nous avons eu hier la chance d'avoir Eliezer Cherki, et donc dans la famille Cherki, voici maintenant Uri, que nous accueillons avec plaisir, et dont nous avons pu profiter de l'enseignement également quand il est venu à Paris dans ses cycles Manitou organisés par Olivier Cohen. Donc, Uri Cherki, bon, qui a fréquenté Manitou depuis très longtemps, puisque c'est une affaire de famille, puisqu'il vient de me dire que son grand-père était l'ami du père de Manitou, donc c'est une... C'était une longue connaissance. Et actuellement, eh bien, Uri Cherki est rabbin dans une communauté qui s'appelle, comment elle s'appelle ?
Beth Yehuda.
Beth Yehuda.
Du nom de Manitou.
Et il, voilà, qui apporte le nom de Manitou, pour vous dire que c'est véritablement, on va dire, la prolongation de cet enseignement de Manitou. C'est Uri Cherki ici qui est l'un des principaux animateurs de la prolongation de cet enseignement. Et puis, par ailleurs, je signale aussi une activité tout à fait intéressante, nouvelle, pleine d'avenir peut-être, c'est que Uri Cherki s'occupe de l'association, on peut dire ça, Brit Olam, qui est le centre Noachid mondial, on pourrait traduire ça comme ça, c'est-à-dire en gros une structure qui réfléchit et qui permet à des non-juifs de venir s'intégrer dans le projet d'Israël. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, alors maintenant on va... La séance d'aujourd'hui est assez spéciale par rapport à ce qu'on a fait précédemment, même si on a eu des textes et des études. Donc, c'est une étude talmudique, puisque Uri nous a demandé de vous distribuer donc un texte qui est extrait du texte de la Gemara Sanhedrin, page 98b. Uri Cherki, je vous laisse la parole. Peut-être vous nous dites où est-ce qu'on va commencer dans le texte, comme ça les gens pourront se repérer.
D'abord, je dis bonjour à tout le monde, shalom. Et je suis très heureux de vous rencontrer. Je félicite Olivier Cohen de cette initiative que je pense extrêmement positive. Il y a aujourd'hui un intérêt accru pour l'enseignement de Manitou en Israël, ce qui est assez nouveau. Il y a une phase où Manitou était très connu en France. Il commence, pour des raisons charédisantes, d'être moins connu, mais grâce à Olivier, on commence à mieux le connaître. En Israël, il y a un intérêt extrêmement développé dans les cercles d'études de la Torah, également dans le public général, pour cet enseignement. C'est donc un signe. Je tiens à rappeler, puisque déjà Antoine Mercier a fait remarquer qu'il y a une vieille connaissance de famille entre la famille Ashkenazi et la famille Cherki depuis plusieurs générations, je tiens à rappeler une anecdote. Un jour, Manitou arrive, c'était je crois dans la fête de Sukkot, il arrive chez mon père et lui dit « Je vais te dire quelque chose, je suis en train de finir un cercle d'études de 8 ans. Pendant 8 ans, nous avons étudié avec les mêmes personnes le Der Chaim du Maharal de Prague. Der Chaim, commentaire du Maharal de Prague sur Pirkei Avot. Et Manitou d'ailleurs considérait que c'était là l'ouvrage le plus important du Maharal, contrairement à l'opinion reçue. Et il disait, avec ce groupe, nous finissons une étude de 8 ans et nous allons ouvrir une nouvelle étude du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslav. Et il a rajouté, c'est parce que jusqu'à maintenant, c'était le temps du Maharal et que maintenant commence le temps de Likutei Moharan. Bon, moi qui étais très jeune à l'époque, c'était il y a 35 ans à peu près cette histoire, je me disais, mais enfin, il déraille complètement Manitou. C'est quoi cette histoire, l'écouter? C'est le temps de l'écouter moral. Comment il sait des choses pareilles? En tout cas, le fait est que dans les 6 mois à partir de cette discussion, j'ai entendu parler d'une dizaine de groupes d'études du l'écouter Moharan un peu partout en Israël. C'est-à-dire, brusquement, il y a eu un intérêt pour l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslav qui n'était pas aussi grand auparavant. En fait, il faut bien comprendre que chaque maître d'Israël a son temps. Par exemple, le Maharal de Prague lui-même n'a pas été étudié pendant 300 ans. Il y avait simplement quelques cercles extrêmement restreints d'initiés qui étudiaient les textes du Maharal. Il était surtout connu à cause du golem. Quand on disait le Maharal, on pensait immédiatement le golem. Mais on a commencé à étudier le Maharal de Prague à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça s'est passé dans 5 endroits différents sur la planète qui n'avaient pas entendu parler l'un de l'autre au même moment. Donc on peut dire qu'il y a eu un temps pour le Maharal. Et puis il y a eu également un temps pour Rabbi Nachman de Breslav. Et maintenant commence une nouvelle période, je me permets d'oser, la période de l'étude de Manitou. Ce qui est assez surprenant, c'est que dans ces nouveaux cercles qui étudient la pensée de Manitou, la moyenne d'âge est inférieure à 70 ans, ce qui est quand même assez remarquable quand on sait ce qu'il en a été pendant ces dernières années. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui est un texte intégralement, enseigné par Manitou, ligne par ligne. Donc ceux qui ont connu l'enseignement de Manitou vont certainement s'ennuyer. Et donc, je ne prendrai absolument pas ça comme une insulte si vous décidez de partir au milieu ou de vous endormir. Ce qui est tout à fait respectable et compréhensible. Bon, une fois tout cela bien dit, il s'agit ici des enjeux de la délivrance d'Israël. L'époque à laquelle nous vivons étant l'époque qui a été diagnostiquée par le Rav Kook comme étant le temps de la Géoula, le temps du retour d'Israël à sa terre. Et ce temps du retour pose énormément de problèmes. Si vous voulez, on peut faire la liste des problèmes de la société israélienne. Alors, on aura de quoi parler pendant quelques heures. Donc, c'est très important de comprendre l'époque à laquelle nous vivons. Rappelons un point très simple, c'est que quand on parle de Géoula, de délivrance, pour le peuple juif, c'est une dimension fondamentalement politique. C'est-à-dire, il n'y a pas dans l'idée de Géoula d'éléments religieux ou spirituels. Je voudrais pour rappeler tout simplement un enseignement du Maharal de Prague, qui est que la galoute, l'exil, est le point de départ de la Géoula. Il y a une sorte de, si vous voulez, ce qu'on appelle d'unité des contraires, développée par le Maharal, qui est que toute notion est solidaire de son opposé. La thèse et l'antithèse, pour employer des expressions hegeliennes. Et donc la galoute et la Géoula appartiennent à la même catégorie, la Géoula étant le contraire de la galoute. Mais alors qu'est-ce que c'est que la galoute? Le Maharal de Prague nous donne trois éléments. Trois éléments pour définir la galoute. Le premier, au fait, vous êtes tout à fait invité à intervenir, à vous scandaliser, à attaquer pendant le cadre de cette étude. Ça rendra ça peut-être un peu plus vivant. Vous êtes tout à fait autorisé à le faire. Évitez de me lapider physiquement. En tout cas, donc, je reviens ici au Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous dit que l'exil est caractérisé par trois éléments. Tout d'abord, ne pas être chez soi. Deuxièmement, la dispersion. Troisièmement, la servitude. Et remarquez que donc dans ces trois définitions, il n'y a aucun élément spirituel. C'est politique ou géographique, mais ce n'est pas spirituel. Et donc, ce qu'on appelle la Géoula, ce sont les trois éléments contraires. Revenir chez soi, être réuni, et indépendant, l'indépendance politique. Étant donné que ces trois éléments sont en train de se réaliser sous nos yeux, que nous avons déjà mérité l'indépendance politique déjà depuis 1948, nous sommes donc en plein dans cette époque que les prophètes appellent la Géoula. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des prolongements spirituels. Il est évident que le retour d'Israël, bien qu'elle n'étant pas le fruit de la Teshuvah, entraîne un mouvement de Teshuvah. Il y a un retour à notre identité originelle, à nos facultés oubliées, endormies, la société prophétique, la civilisation prophétique, tout cela est en train de se rebâtir. Mais le point de départ est tout d'abord politique, et en cela, il y a une opposition profonde avec la tradition chrétienne. La semaine dernière, j'ai parlé devant un forum de chrétiens. En fait, la première fois que je l'avais fait, c'est parce que Manitou m'avait demandé de le faire. Et la semaine dernière, donc, j'ai rencontré un groupe de chrétiens qui m'ont demandé de leur parler d'Israël et des nations. Je leur ai dit, écoutez, vous savez qu'il y a un problème, c'est que les rabbins ne sont pas des chrétiens et donc vous risquez d'entendre des choses qui ne vous plairont pas. Il dit, mais justement, c'est ça qu'on est venu faire. Alors donc, ils ont entendu des choses qu'ils n'ont pas aimées, mais c'est très bien, ils ont eu beaucoup de plaisir puisque c'était pour ça qu'ils étaient venus. Et j'ai repris cet enseignement avec lequel ils étaient tout à fait d'accord. Que effectivement, ce qui a séparé le christianisme du judaïsme à son origine, c'est exactement ça. C'est la nature de ce qu'on appelle la Géoula. C'est quoi le messianisme? Alors, vous savez que le fondateur du christianisme, quand il est allé voir les rabbins, il leur a dit, vous savez, vous autres rabbins, les pharisiens, vous attendez que le fils de David vienne pour vous libérer de la domination des Romains. Moi, je suis venu pour sauver les âmes. Les rabbins ont dit, tiens, c'est intéressant, mais ce n'est pas du judaïsme, ça. Et donc, ils l'ont mis dehors. Et en fait, on peut dire que aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'accomplissement du messianisme à la juive, c'est-à-dire que nous sommes au moment du retour de l'indépendance politique comme fondement du développement et de la réussite de l'histoire. Je pense être jusque-là assez clair. Et puisque c'est comme ça, nous allons maintenant étudier un texte de la Guémara dans Sanhédrin qui traite justement des problèmes inhérents à notre époque. Ce texte, je vais tout de suite vous dire où est-ce qu'il faut regarder, pose une question très intéressante. Est-ce que c'est une bonne chose de vivre à notre époque? Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose de vivre à notre époque? Alors, ça, c'est une question posée par le Talmud. Vous avez déjà des réponses. Et donc, vous pensez que le Talmud a perdu son temps à nous donner cette page, puisque vous avez une réponse déjà toute faite. Les rabbins du Talmud auraient dû vous interroger, vous demander, est-ce que ça vaut la peine de vivre à votre époque? Vous auriez dit tout de suite, mais oui, bien sûr. On va voir que chez les rabbins du Talmud, cette question était extrêmement grave et qu'ils n'ont pas tous répondu comme vous. Le pire, ce qui est encore très intéressant, c'est de voir que les rabbins se demandent si ça vaut la peine de vivre à une certaine époque, comme si on nous demandait si on voulait bien vivre à une époque ou pas. On n'a pas le choix. Vous dites que vous n'avez pas le choix. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas le choix. Vous savez que souvent on se dit, on n'a pas le choix de vivre à l'époque où l'on vit. Mais qui vous dit que vous n'avez pas choisi de vivre à cette époque? Ah, hein? Ça c'est une bonne question, non? Disons,
c'est... Pas choisi sa naissance.
Alors, justement, c'est précisément ça que je vous demande. Est-ce qu'on a choisi ou pas sa naissance? C'est pas une évidence qu'on n'a pas choisi sa naissance. Je vais vous dire, même, j'irai plus loin. Si ma naissance m'est imposée, alors j'ai pas demandé à jouer le jeu. Alors pourquoi je dois payer? C'est-à-dire, vous savez, il y a un texte absolument horrible, a priori, de la Mishnah qui nous dit « Al kochacha ata notzar » C'est contre toi-même, malgré toi que tu es formé. Al-Kochacha atanolad, malgré toi que tu es né. Al-Kochacha atachai, c'est malgré toi que tu vis. Val-Kochacha atamet, c'est malgré toi que tu meurs. Val-Kochacha atahati, ditendin, bihechbon, difne, melech malchea melachim akadosh baruchu. Et c'est malgré toi que tu vas devoir rendre des comptes devant le roi des rois des rois, le saint béni soit-il. Horrible ce texte. Ça veut dire en fait, tu es coincé, tu n'as pas le choix, et tu vas devoir payer. Je trouve que c'est absolument scandaleux sur le plan moral. Parce que quand on lit un texte pareil, on ne peut pas ne pas être révolté. N'est-ce pas? C'est une vision démoniaque du monde, ce que vous me dites là. Comment? J'ai pas demandé et je dois payer?
Mais je peux transformer ma vie.
Oui, mais je ne veux pas jouer le jeu. Alors, Manitou disait, au nom des élèves du Gaon de Vilna, c'est vrai que tu n'as pas, que tu vis malgré toi. Alors, ça veut dire quoi, malgré toi? Contre ta volonté. Alors, pourquoi est-ce qu'au moment de mourir, tu ne veux pas? Si, malgré toi, tu vis, mais c'est malgré toi que tu meurs, ça veut dire que c'est pas malgré toi que tu vis. Donc, tu dois rendre des comptes. Ça veut donc dire que tu as choisi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que commence la Mishnah. Regardez bien le texte. Al-Kochacha ata notzar. C'est malgré toi que tu es formé. Quel est ce moment biologique qu'on appelle la formation?
Hein?
Pas du tout. Justement pas. Justement pas. En hébreu, le mot yetzira ne désigne pas la fécondation. Il désigne le 40e jour après la fécondation. C'est-à-dire, en embryologie, c'est le moment où commence à apparaître le système nerveux, ou bien ce que la Guémara appelle rikum evarim, c'est-à-dire la formation des chairs. Et donc, ça suppose, si la Mishnah a choisi de dire Al-Kochacha ata notzar et qu'elle a choisi seulement le 40e jour après la fécondation, ça veut dire que d'après la Mishnah, le moment de la fécondation n'était pas imposé. Ça veut dire que j'ai choisi d'être celui que je suis. Et d'ailleurs, s'il y a un texte express dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 11a, Kol ma'ase bereshit leda'atan nivreu, toute l'œuvre de la création a été créée selon sa volonté, selon son opinion, en lui demandant son avis. Et Rachid dit, She'ala mimrotzim leibarev amruhen, Dieu leur a demandé s'ils voulaient être créés. Ils ont dit oui. Alors, comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui n'est pas encore créé s'il veut bien être créé? Ça, c'est un autre problème. Mais, en tout cas, ce qu'affirme le texte de la Guémara, en tout cas selon l'interprétation de Rashi, c'est que j'ai bien voulu être celui que je suis. Je m'en souviens pas toujours. Peut-être que je l'ai oublié. Mais en fait, j'ai voulu être celui que je suis. Pour revenir à notre texte à nous, ça veut donc dire que les rabbins, quand ils se demandent si ça vaut la peine de vivre à notre époque, se posent une question pratique. Est-ce que je vais, quand je serai en haut, ou quand j'ai, lors de, disons, de ma réincarnation, si on me demande si je veux bien vivre au XXe siècle ou au début du XXIe, eh bien, qu'est-ce que je vais répondre? D'accord? Donc, c'est pas pour rien que les rabbins ont posé ces questions. Ça, bon, c'est un peu mystique, mais ça correspond tout à fait à l'enseignement de Manitou, qui, comme vous le savez, appartenait à une tradition kabbalistique extrêmement riche et ancrée. Bon, alors maintenant, pour y revenir, regardez dans le texte de la Guémara, à la ligne numéro 2, 4, 6, 7, à la septième ligne, au milieu de la ligne.
Ça commence par
Amar Oula. Amar Oula, voilà, vous avez là.
C'est ça. Donc 98B1, la première page traduite.
Alors sur la gauche.
Sur la colonne de gauche, voilà.
Oui, mais enfin, tous ces gens-là, vous voyez, ils sont très intéressés par le texte hébraïque.
Oui, mais c'est bien.
Oui, c'est très bien, voilà.
Oui, mais il y a l'hébreu quand même.
Oui, aussi. Il y a aussi l'hébreu. Bon. Amar Oula. Oula était un rabbin dont le nom probablement trahit des origines françaises, parce que quand il a vu ce qui allait se passer de nos jours, il a dit « Oula ». Bon. Oui. En tout cas, nous avons ici un des maîtres de la tradition, Oula, un Amora de la troisième génération des Amoraïm, Amar Oula, y était, qu'il vienne. Quand un rabbin dit qu'il vienne, de qui parle-t-il?
Du Messie.
Du Messie. Eh oui. C'est-à-dire, Oula est intéressé à ce que le Messie vienne. Vela ihmine, et que je ne le vois pas. C'est-à-dire, vous voyez le point de départ. Un rabbin du Talmud qui dit, moi, la venue du Mashiach, l'époque de la Géoula, je préfère ne pas y être. Y était, qu'il vienne, que je ne sois pas là. Remarquez une chose intéressante, il ne dit pas qu'il ne vienne pas. Il dit qu'il vienne, je veux qu'il vienne, mais je ne veux pas y être. Ça veut dire que Oula est conscient d'un hiatus entre son équation personnelle, sa manière à lui de vivre les choses, et les nécessités de l'histoire. Il y a une nécessité de l'histoire que le Messie vienne, mais lui, Oula, ne se sent pas capable d'affronter l'époque. Donc, il dit qu'il vienne, mais que je ne sois pas là. C'est tout à fait contraire, par exemple, à l'opinion de Yeshayahu Leibovitch, qui disait, le Mashiach, c'est celui qui doit venir dans l'avenir. Donc s'il vient dans le présent, c'est un faux Messie. Ce qui voulait dire, à la manière de Leibovitch, qu'en fait le Messie ne viendra pas. D'accord? Les opinions de Yeshayahu Leibovitch étaient très intéressantes, et sur le plan philosophique, c'est très enrichissant. Le seul problème qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi est-ce qu'il s'acharnait à dire que son opinion, c'est le judaïsme? Mais en tout cas, on voit bien que même les rabbins qui ne veulent pas vivre l'époque messianique veulent qu'elle vienne. D'accord. Donc, il était vela irminé, qu'il vienne et que je ne le vois pas. Pour quelle raison Oula ne veut pas voir la venue du Messie? Pour l'instant, on ne le sait pas. On ne le sait pas, on le comprendra par la suite du texte. Je continue. Vechen amar rabba. De même, a dit rabba. Rabba est un maître de la quatrième génération, donc une génération après Oula. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rabba? Yété, qu'il vienne, Vela yahmine, et que je ne le vois pas. Mais c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous répéter la même opinion, uniquement parce que c'est un autre rabbin? Et s'il y avait une dizaine de rabbins qui ont dit ça, alors on amènerait les 10 noms des 10 rabbins? Quand la Guémara dit Vechen, et de la même, et ainsi a dit, ça veut dire que c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est les mêmes mots, c'est peut-être le même contenu, mais c'est pas la même logique. C'est-à-dire, la motivation du refus de Rabat n'est pas la même motivation que celle du refus de Oula. Et donc, ce que ça va nous amener à nous poser comme question, c'est, mais quelle est la raison? La raison du refus de Oula, la raison du refus de Rabat. D'accord? Ça va compliquer donc beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sortes de problèmes à l'époque messianique, et donc chacun a sa raison à lui de refuser. Nous avons de la chance, grâce à une question d'un élève de Rabat, on va comprendre la raison de Rabat. Celle de Oula, on la comprendra plus tard. Non, d'abord, on va commencer. Non, je me suis trompé. Passons d'abord par Rav Yosef. Rav Yosef, qui est un contemporain de Rabat, dit, rappelons-nous une chose intéressante, Rav Yosef était aveugle. Donc il ne voyait pas. Donc il ne pouvait pas dire que je ne vois pas l'avenue du Messie, de toute manière il ne la verrait pas. Mais il dit autre chose. Amar, il a dit, yete, qu'il vienne, ve'ezke de etiv, et puissais-je mériter de m'installer, betula de kufita de hamre, à l'ombre des crottins de son âne. Donc on voit d'abord que Rav Yosef réagit. Il n'est pas d'accord. Il veut être là. Il ne peut pas voir, mais il veut être là. Et il veut s'abriter à l'ombre des crottins de l'âne du Mashiach. Ah bon? Oui. Bon, alors, ça veut dire qu'en fait, ce qui embêtait Oula, ce sont les crottins de l'âne du Mashiach. Il ne pouvait pas supporter, je ne sais pas, l'odeur, le contact, la vue. L'âne du Mashiach, il est salissant. Et c'est ça que Oula ne veut pas. Et c'est ça que Rav Yosef veut. D'accord? C'est quand même bizarre. D'abord, c'est quoi l'âne? À quoi ça sert un âne? À transporter. C'est un moyen de transport, c'est un véhicule. Aujourd'hui, vous direz, ma voiture. À l'époque, mon automobile. Aujourd'hui, à l'époque, c'était l'âne. Donc l'âne, c'est celui qui porte. C'est-à-dire, il y a quelque chose pour faire avancer le messianisme. C'est-à-dire, il y a un roi, le roi Messie, c'est très bien, mais il faut qu'il se déplace sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui entraînent la Géoula, qui entraînent la délivrance. Ces processus sont problématiques. Ils font des crottins. C'est-à-dire, l'âne en lui-même, c'est bien. Vous savez qu'on met en rapport le mot homer, la matière, avec le mot hamor, qui veut dire un âne. Ça veut dire qu'il y a un investissement matériel nécessaire pour amener la Géoula. On ne passe pas impunément d'un état de nation entièrement spirituelle à un état de nation entièrement ancrée dans le matériel. Il faut quand même dessécher les marais, il faut faire une banque, une armée, des institutions politiques. Il y a beaucoup de travail. Il faut faire des yeshivot, des universités. C'est énormément de travail. Ça demande beaucoup d'argent. Et ça demande beaucoup d'investissement personnel. Les pionniers. Pour s'y mettre, il faut même dire des idéologies un peu socialisantes, matérialistes. Et grâce à ça, finalement, eh bien, le Messie peut venir. Mais, au passage, il y a des dégâts. Les dégâts, c'est la chute spirituelle et morale et religieuse de la génération du sionisme. Ce qu'on appelle en hébreu la chilonout. En français, on traduit ça par la laïcité, mais ce n'est pas exactement ça. Non, c'est pas vraiment la laïcité. La laïcité, c'est plutôt neutre. Mais le mot chilonout en hébreu signifie le rejet de la religion, le rejet de la tradition juive. Et c'est une nécessité. Ou là, c'est très bien que ça se passera comme ça. Il y aura des crottins de l'âne. Il dit, moi, je ne peux pas supporter. Je suis trop religieux, trop spirituel pour pouvoir supporter ce passage-là. Donc, Oula dit, avec tout le kavod que ça demande, tout le respect que j'ai pour cette nécessité, mais je ne veux pas y participer. Je ne suis pas capable, je n'ai pas les nerfs assez solides pour ça. Et Rav Yosef, lui, par contre, il dit, non, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, je veux être à l'ombre des crottins du Mashiach. Maintenant, je voudrais rentrer dans quelques détails techniques, peut-être un peu problématiques. Vous avez déjà vu un crottin d'âne?
Non.
Non, jamais?
Oui.
Vous avez vu? Quelle taille ça a? C'est comme ça, hein? Oui, c'est comme ça, hein? C'est un peu... Non, c'est plus gros qu'un crottin de chèvre. C'est comme ça, à peu près. D'accord? Bon. Combien d'ombre ça fait? Tout petit peu d'ombre. Pour être installé à l'ombre des crottins, il faut qu'il y en ait beaucoup. Mais, si je peux me permettre, il y a un âne, ça avance. Alors, un crottin par-ci, par-là, ça fait toujours pas un tas. Alors, quand est-ce que cela est possible? S'il ne bouge pas. C'est un âne. Les ânes sont têtus. Parfois, ils ne veulent pas bouger. C'est-à-dire qu'il y a des... Reprenons la métaphore. Ça veut dire qu'il y a des situations où la Géoula n'avance pas. Elle est coincée. C'est coincé. Alors on se disait, bon, on voulait bien accepter un âne un peu salissant pour amener le Mashiach. Mais que ça avance au moins. Mais parfois, c'est coincé. Ça recule. Oslo et tout le reste. Alors, comment est-ce qu'on peut supporter une chose pareille? Non, ça n'avance pas, et il y a une accumulation de décadence. Ça fait une montagne qui va faire de l'ombre. Har Tzel. C'est-à-dire, il y a une montagne qui fait de l'ombre. Ah, ça fait un jeu de mots, j'y ai même pas pensé. Et donc... Non, on ne peut pas rivaliser avec Manitou pour les jeux de mots, ça ne marche pas, d'accord? Oui, comme disait Manitou par exemple, celui qui a construit le Beth Amikdash était Hiram. Hiram, qui était un Libanais, c'était le Libanais Amikdash. Et donc, maintenant revenons à... Ça c'était un intermède pour détendre un peu, nous continuons. Et donc, Rav Yosef, lui, dit, moi je veux être à l'ombre des crottins de l'âne. Qu'est-ce qu'il a compris, Rav Yosef? Rav Yosef, il a dit, bon, les crottins, ça vous embête, c'est sale, c'est malodorant, mais ça fait de l'ombre. L'ombre, c'est quelque chose d'utile. Je veux être installé dans cette ombre. C'est-à-dire, il voit l'aspect positif du phénomène. Être installé à l'ombre, quand est-ce qu'on a besoin d'ombre?
Quand il y a du soleil.
Or, ce que dit Rav Yosef, c'est qu'il y a un soleil radiant et très fort au moment de la Géoula, et qu'il a besoin, ce soleil, d'être filtré. Le retour de la Shekhina, le retour de la présence divine sur Terre, c'est quelque chose de difficile à soutenir. Il faut pour cela un écran. Et l'écran, justement, il est dispensé par l'épaisseur un peu grossière de la génération du temps de la Géoula. Parce que si on était trop conscient de ce qui se passe, on ne pourrait pas supporter. Comme disait Manitou, si nous étions vraiment conscients de la nature des événements que nous sommes en train de vivre, nous deviendrions fous. C'est-à-dire, imaginez, par exemple, que vous êtes en train de vous dire, je suis en train de vivre un des événements les plus importants de l'histoire. On ne peut pas acheter à l'épicerie le matin un litre de lait, impossible. Vous êtes coincé, vous tremblez. Il faut absolument donc ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Et ça, c'est important. De même, par exemple, nous avons le cas de Shimshon. Shimshon, Samson, le juge, qui était un gros paquet de muscles, un peu mal dégrossi comme ça. Et c'est lui qui a commencé la délivrance contre les Philistins. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Et également, le texte de la Bible nous dit que Samson était le premier après une longue interruption, à être inspiré par la prophétie. Vatahel ruach Hashem lefa'amo. L'esprit de Dieu a commencé à sonner en lui. Or, la prophétie, c'est pas facile à supporter. C'est très difficile. Il faut pour cela, il soulève des, comme on met de la matière radioactive dans du plomb. Eh bien, c'est la même chose. Il faut quelqu'un un peu fort à bras, un peu grossier comme ça, comme Shimshon, pour pouvoir filtrer ça. Exactement, c'est ça que dit Rav Yosef. La génération du Mashiach, c'est nécessaire qu'elle donne du crottin de l'âne du Mashiach. C'est-à-dire que, pour Rav Yosef, là où d'autres voient de l'obscurité, lui, il voit de la lumière. Il dit, c'est important que ça se passe comme ça. Il faut donc qu'il y ait ce filtre. Ça nous rappelle quelque chose d'important. Il y a un texte du Zohar qui nous dit qu'il y a des conditions d'entrée à la yeshiva du Mashiach. Vous savez, dans le ciel, il y a plusieurs yeshivot. Dans chaque yeshiva, il y a des conditions d'entrée. Et il y a, d'après le Zohar, le Rosh HaYeshiva dit que pour entrer dans sa yeshiva, le Rosh HaYeshiva du Mashiach, pour entrer ici, il faut savoir transformer les ténèbres en lumière et l'amertume en douceur. Hashocha l'inora miriru l'imtiku. Si vous ne savez pas faire ça, alors ne rentrez pas ici. Ça veut dire qu'il y a un enseignement particulier du temps messianique qui nécessite de voir des lumières là où on voit de l'obscurité. Donc il faut apprendre le livre des lumières, Oroth. Oroth, le livre du Rav Kook. C'est-à-dire, si vous ne savez pas voir de la lumière dans l'obscurité, alors allez étudier dans une autre yeshiva. Dans une autre yeshiva, on vous apprendra que l'obscurité, c'est de l'obscurité, et que l'obscurité, c'est de l'obscurité. C'est-à-dire que si on ne voit que du noir, on n'est pas à même d'avoir l'enseignement nécessaire pour supporter cette époque. Et donc, c'est ce que dit Rav Yosef. Moi, je sais voir la lumière dans l'obscurité. D'ailleurs, il était aveugle, donc il ne voyait pas ce que les autres voyaient, mais il voyait plus profondément. Il voyait donc de la lumière. Comment ?
Est-ce que c'est de l'espérance ?
On peut dire certainement. C'est de l'espérance pour lui de voir. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je vais vous dire, il y a un mot. Pour dire espérance en hébreu, on dit tikva. Ça, c'est le mot habituel. Il y a un mot moins connu. Non, il y a un autre mot moins connu. Tzipia, c'est trop connu. Il y a un autre mot moins connu. Ça s'appelle l'échaher. Non, pas l'échaher, qui veut dire libérer. L'échaher, qui veut dire espérer. Ça ressemble. Et la même racine que shachor. À ce propos, je voudrais vous amener donc un texte très intéressant. Mais pour comprendre ce texte, d'abord voyons la suite du Zohar. Le Zohar nous dit le nom d'un rabbin qui pouvait rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Qui était-ce ? Moi, j'aurais mis Rav Yosef, évidemment.
Un rabbin qui, pardon ?
Qui pouvait rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Et ce rabbin qui pouvait rentrer dans la yeshiva du Mashiach, moi, j'aurais mis Rav Yosef, d'après le texte que nous avons. Non, mais le Zohar nous amène quelqu'un d'autre, que puis-je faire ? Le Zohar nous amène Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, lui, pouvait rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Ben, qu'est-ce qu'il avait, Rabbi Hiya ? Ben, Rabbi Hiya, on nous raconte de lui, dans le début du Talmud de Jérusalem, dans Berachot Aleph Aleph, on nous raconte que Rabbi Hiya se promenait pendant la nuit avec Rabbi Shimon ben Halafta. Et il se promenait où ? Dans la vallée de Arbel. Vous savez où c'est le Arbel ? Hein ? À côté de Tibériade, au nord de Tibériade, entre Migdal et Tibériade, il y a une vallée encaissée, qu'on appelle le Arbel, qui se déverse dans le lac de Tibériade. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ben, à un moment, il fait très noir, et puis il voit Ayelet HaShahar, le premier rayon de lumière de l'aube, le début de l'aube qui apparaît. Et alors Rabbi Hiya, Hagadol, le grand, dit à Rabbi Shimon ben Halafta, « Tu vois, maître, c'est ainsi que se fera la libération d'Israël. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que il y avait entre Rabbi Chiya et Rabbi Shimon ben Chalafta, il y avait un débat. Ils n'étaient pas d'accord. Ils discutaient de la délivrance. C'est la raison pour laquelle on les met dans le Harbel, parce que le Harbel, il arrive à Tibériade, et que c'est de Tibériade que commence la délivrance. Et donc, ils discutent. Et qu'est-ce que dit Rabbi Shimon ben Chalafta? C'est que plus ça va mal, plus ça va mal. Et Rabbi Chiya lui dit non, plus ça va mal, plus ça va bien. Et vous savez comment se fait la nuit? Ceux qui ont été de garde la nuit savent très bien qu'au début, il y a le soleil, puis après le soleil se couche, et après il y a la lune, mais après la lune se couche. Et après, il y a les étoiles. D'accord? C'est-à-dire que la lumière va en diminuant. Mais, il y a un moment où les étoiles s'éteignent. C'est quoi ce moment-là? C'est juste un peu avant l'aube. Bon, il y a des raisons physiques à ça. La lumière commence à apparaître, donc la lumière des étoiles disparaît. Mais psychologiquement, on a le sentiment qu'il fait plus noir. Et si on n'est pas averti, alors on se dit que c'est que la nuit devient de plus en plus profonde. On n'en sortira jamais. Mais si on est bien au courant, on sait que c'est parce que la lumière est en train d'apparaître. Et c'est pour ça que ça s'appelle shahar, l'aube. Shahar qui veut dire noir, mais qui veut dire également espérance. Si on n'est pas informé, on voit du noir. Si on est informé, on voit la lumière. Et c'est pour ça que Rabbi Chiya dit à Rabbi Shimon ben Chalafta, c'est ainsi que se fera la délivrance d'Israël. Il y aura un moment très noir à partir duquel va se développer la lumière. D'accord? Ce qui vous explique pourquoi le Zohar dit que Rabbi Chiya pouvait rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Tout simplement. D'accord? Bon, donc Rav Yosef fait partie de cette école, de l'école qui, elle, n'a pas peur des chutes spirituelles et morales du temps de la Géoula. Il dit, moi je suis prêt à affronter ça. Au contraire, les crottins de l'âme du Mashiach, ça m'intéresse, ça fait de l'ombre. Or l'ombre, ça c'est important, ça permet de se protéger du soleil irradiant de l'époque de la Géoula. Il y a d'ailleurs un texte que je vais vous amener de Avot de Rabbi Nathan. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, je voulais
allez-y,
dire
allez-y.
Aussi qu'il le mérite, quand même, il le mérite.
Ah, tout, ça a de problème. Est-ce qu'il faut mériter?
Je sais pas.
Est-ce qu'il faut mériter? Il y a un texte, une page auparavant, mais ça n'a pas été photocopié, où il est question de, où c'est ça le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua pour savoir si le temps de la délivrance, ça se mérite ou pas. D'accord? C'est un sujet très important. Non, mais est-ce que ça se mérite ou pas? Il y a aussi le mérite d'être. Ce que Manitou appelait le mérite de l'être. En hébreu, c'est goula. Ces goula, vous savez que les fruits d'Eretz Israël sont meilleurs parce qu'ils ont ce goula. Et donc, il y a un problème de savoir quel est le mérite. Nous avons de nombreux textes qui nous disent que la Géoula se fait sans mérite, ou aussi avec mérite. Bon, ça c'est un autre sujet. Ça a peut-être un rapport également avec le problème de savoir est-ce qu'on choisit de vivre à cette époque.
Oui. Est-ce que ce Géoula dont vous parlez, le mérite, c'est le même que dans
non.
Le...
Ces goûts-là, c'est le mérite de l'être.
Le peuple de l'élection.
Oui, exactement.
C'est le même terme.
Exactement, le même terme. Oui. Et bon, enfin, mais c'est un sujet qui mériterait une étude en soi. D'accord? En tout cas, lui, Rav Yosef, n'a pas peur. Je voudrais vous amener un texte tiré du Avot des Rabbi Nathan. Il y a toute une braïta autour du traité de Avot, qu'on appelle Avot des Rabbi Nathan, qui est un texte extrêmement long. Et dans le 30e chapitre, donc pour vous dire la longueur du livre, il y a, non, chapitre, pardon, 33. Il y a un récit, comment est-ce que les enfants d'Israël ont passé la mer Rouge. Alors vous savez comment ça se passe. Vous avez le pharaon avec son armée menaçante derrière. Devant les enfants d'Israël, il y a une mer houleuse. À droite et à gauche, il y a un désert avec des serpents et des scorpions. Détresse. Moshe lève le bras, la mer s'ouvre. Merveilleux, non? Et Moshe leur dit, Koumou Ivrou, levez-vous, passez. Réaction des enfants d'Israël, on ne passe pas, c'est boueux. Et alors Moshe, bien embêté, prie pour que la boue sèche. Miracle, la boue sèche. Il leur dit, passez. Ah non, on passe pas, c'est pas droit. Vous savez, il y a le pharaon derrière, hein, avec son armée, les archers et tout le reste. On passe à, c'est pas droit. Moshe prie et le fond de la mer devient plat. Et alors les enfants, il leur dit, mais alors maintenant, passez, comment arriverons ? Ils disent, mais on ne peut pas, c'est pas granuleux. Et Moshe prie et le sol devient granuleux. J'ai compté là-bas le nombre des exigences des enfants d'Israël, il y en a 15. 15 exigences qui comportent également le fait qu'il faut qu'il y ait des fruits pour les enfants et qu'il y ait un toit. C'est-à-dire que on vient, mais s'il y a les conditions nécessaires. D'accord ? Est-ce que je serai assuré d'avoir un emploi ? Est-ce que, enfin, il y a des choses de ce genre. Et sinon, je ne passe pas. Maintenant, est-ce que cette histoire est authentique ? Certainement, parce qu'il s'agit de juifs. Et donc, ce que ça veut dire, mais quand nous nous représentons le temps de la Géoula, on se dit, c'est merveilleux. Il faut savoir que celui qui vit le moment de l'événement ne se rend pas compte de la grandeur du moment. Ce qui explique d'ailleurs ce qui se passe de nos jours également, nous ne rendons pas compte de l'immensité des événements que nous vivons aujourd'hui, qui, à plus d'un point de vue, sont beaucoup plus grands et beaucoup plus importants que la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. Ce que nous vivons aujourd'hui était évidemment beaucoup plus important que la sortie d'Égypte pour 4 raisons différentes. Qui sont ? Tout d'abord, la sortie d'Égypte s'est faite après 2 siècles. La sortie d'Europe après 2000 ans. C'est quand même 10 fois plus. La sortie d'Égypte s'est faite d'un seul pays. La sortie actuelle, elle s'est faite de 150 pays. Quand même 150 fois plus. La sortie d'Égypte s'est faite malheureusement à travers des miracles. Aujourd'hui, elle se fait, Baruch HaShem, à travers des voies naturelles. C'est-à-dire que la nature participe de la Géoula. Quatrièmement, la sortie d'Égypte n'a pas empêché qu'il y ait un exil après. Notre retour actuel, il n'y aura plus d'exil après. Et donc, c'est beaucoup plus important. C'est infiniment plus important que la sortie d'Égypte. Mais on ne s'en rend pas toujours compte, oui ?
Pourquoi tu utilises le mot nature ? Parce que ça reste quand même de Dieu.
La nature, ça vient de Dieu, je crois. Ben, disons que, d'après le judaïsme, qui est monothéiste, Dieu s'occupe de tout, aussi bien des miracles que de la nature. Dieu s'occupe même des miracles, mais essentiellement de la nature. Bien sûr. Donc revenons à notre texte. Donc Rav Yosef dit qu'il veut vivre à cette époque. Donc ça nous a permis de comprendre quelle était l'objection de Roula. Roula ne pouvait pas supporter la chilonout. Il ne pouvait pas supporter la décadence religieuse et morale de l'époque de la Géoula. Qu'en est-il de Rabba ? Alors, pour savoir quelle est la motivation du refus de Rabba, il faut pour cela lire la réaction de son élève. Rabba a un élève. Quel est l'élève de Rabba ? Amarle Abaye le Rabba. Abaye dit à Rabba. Donc Abaye, Amora de la 5e génération, qui objecte à son maître de la 4e génération, Rabba. Il lui dit, Maïta'ama, quelle est la raison ? Pour quelle raison tu ne veux pas vivre à l'époque messianique ? Donc Abaye, c'est déjà que ce n'est pas la raison de Oula, mais c'est une autre raison. Ileima mishum hevlo shel Mashiach. Est-ce que ça serait à cause des douleurs de l'enfantement du Messie ? C'est-à-dire que, bon, c'est une question rhétorique, ça veut dire que Abaye a compris que ce qui embêtait Rabba, ce sont les douleurs de l'enfantement du Messie. Qu'est-ce qui est si douloureux là-dedans ? Regardez ce que dit Rashi. Vous avez Rashi sur la droite, Chevlo shel Mashiach. Une ligne un peu plus bas, Goralo, son destin. Là, là, sur la droite. Rashi sur la droite ici. Goralo, c'est. Chevlo shel Mashiach, Goralo. Son lot. Ulkaman, Bae, Mahi, plus loin on demandera de quoi s'agit-il. Lishna Harina, autre interprétation, nous dit Rashi, Hevlo, sa douleur, Pehadim Vahavalim, la terreur et les souffrances, Sheyu Beyamav, qui y aura de son temps, Michel Hagoyim, à cause des armées des nations. Écrit au Vdekochavim, mais il faut dire Goyim. Ça veut dire que, au moment de la, quand on parle de douleur d'enfantement, rappelez-vous une chose importante, quand on parle de douleur d'enfantement, c'est avant l'enfantement. C'est-à-dire, si on considère le temps messianique comme étant le temps de l'indépendance politique, ça veut dire qu'un peu avant l'indépendance politique, il est prévu une période de grande douleur, et dans laquelle on n'aura pas le choix. Il y aura donc une douleur très forte.
C'est la
Shoah, non ? Je crois, oui, puisqu'on n'avait pas le choix, donc ça veut dire que c'était la Shoah. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, nous savons de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous savons que les Chachamim ont prévu une éventualité de la Shoah, indépendamment de savoir pourquoi il y a la Shoah. Mais en tout cas, l'événement, lui, est connu comme option possible. Au moment du retour, il se passe quelque chose de terrible. Cette douleur d'enfantement. Et Rabat ne veut pas vivre ça. Donc on voit que c'est tout à fait différent de Oula. Chez Oula, la motivation est morale. Chez Rabat, c'est l'horreur de la guerre. Il se dit, on ne peut pas supporter une chose pareille, je ne veux pas être là-bas. Et cette douleur donc de la Shoah, par exemple, il y a un texte de la Bible qui parle de la Shoah. Oui, vous connaissez le texte de la Bible qui parle de la Shoah?
Oui.
Ben si, le rouleau d'Esther. Ah. Dans l'histoire de Megillat Esther, c'est l'histoire d'une Shoah qui a été évitée. D'accord? Mais c'est une Shoah. C'est-à-dire le projet de Haman était de détruire tous les Juifs, une solution finale. Finalement, Baruch HaShem, on l'a évité. Mais ça veut dire que l'éventualité est connue. Nous savons que ça peut arriver. Et nous savons que ça se produit aux époques de retour. Au moment du retour, cette éventualité existe. Or, c'est ça dont parle Rabat. Rabat dit, je ne veux pas être là-bas. Et Abaye a très bien compris que c'était ça qui gênait son maître. Il dit, Maïta Ama, il est ma mishum reblosh al Mashiach. Est-ce que ça serait à cause des douleurs de l'enfantement du Mashiach? Ve'atania, mais nous avons appris. Sha'alut al-Midav et Rabbi Lazar, que les élèves de Rabbi Lazar lui ont demandé, Maya ase Adam ve'yinatzel mi'chevlo shel Mashiach, que doit faire un homme pour être sauvé des douleurs de l'enfantement du Messie? Ya'asok batora ou vigmilut chassadim, il doit se consacrer à la Torah et aux bonnes œuvres. Umar, or vous maître, ha Torah ve'ha gimilut chassadim. Vous êtes plein de Torah et de bonnes œuvres. Alors remarquez d'abord la naïveté extraordinaire de l'élève. Il comprend deux choses. Tout d'abord, que les tzadikim ne seront pas victimes de la Shoah. Alors pour lui, c'est une évidence. Ceux qui étudient la Torah et font des bonnes œuvres, ils n'y passeront pas, donc il n'y a pas de problème. Puisque Rabat, il fait partie de ce club, donc il n'a pas de problème. À part ça, il se dit que Rabat, en fait, est préoccupé de son destin personnel. Mais que, puisqu'il peut s'en sortir, quel est le problème? Vous rendez compte ce que dit Abaye? Ça vous choque, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Enfin, c'est ça qu'il a compris chez son maître. Or, nous savons, par l'histoire, que les tzadikim, lors de la Shoah, ils n'y ont pas échappé. Ils n'y ont pas échappé. Donc, il y a ici quelque chose qui cloche dans l'enseignement de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a dit quand même quelque chose, que si on se consacre à la Torah et aux bonnes œuvres, on y échappe. Alors, comment comprendre Rabbi Lazar? Réponse de Rabat. Comment? Si, on sait. Celui qui se consacre à la Torah et aux bonnes œuvres. C'est ce que dit Rabbi Lazar. Or, nous savons que nombreux étaient ceux qui se consacraient à la Torah aux bonnes œuvres, qui n'ont pas échappé à la Shoah. Bien sûr. Donc, on peut dire, pour un tel, un autre, mais statistiquement parlant, ça ne tient pas la route. Donc, il y a ici un problème. C'est-à-dire que Rabbi Lazar, quand même, a dit quelque chose. Rabbi Lazar dit qu'on peut y échapper si on se consacre à la Torah aux bonnes œuvres. Or, ce n'est pas vrai. Réponse de Rabat. Amarle, il lui a répondu. La réponse est absolument incroyable. Hein. Vous avez, heureusement que vous êtes assis, parce que sinon vous tomberiez de vos chaises. Amarle, Shema Yigrom Achet. Peut-être que le péché sera la cause. Oui, Shema Yigrom Achet. Peut-être que le péché sera la cause. Ah bon? Ça veut dire, attention, ça veut dire que Rabba dit, on n'est jamais à l'abri parce qu'on peut avoir un péché. Bon, alors ce cas-là, hein, ce qu'a dit Rabbi Lazare, c'est n'importe quoi. Parce que trouver un tzaddik sans péché, c'est extrêmement rare. Alors ça voudrait dire qu'en fait, ce qu'a dit Rabbi Lazare, ça ne sert à rien. C'est simplement des bonnes paroles pieuses, mais qui en fait ne veulent rien dire. Puisqu'il suffit d'un péché pour qu'on y passe quand même. Ça veut donc dire qu'en fait, Rabba ne pense pas à n'importe quel péché. Il pense à un péché précis. Mais il faut savoir de quoi s'agit-il. Quel est le péché qui fait qu'on risque de ne pas y échapper? Attention, il ne faut pas se tromper. Le texte ne dit pas que la Shoah est une punition de ce péché. Les raisons de la Shoah sont tout à fait différentes du péché. Ça n'a rien à voir avec le péché. Les raisons de la Shoah, c'est un sujet d'étude en soi. Manitou aussi avait tout un enseignement autour de ça. Mais quand la Shoah devient possible, il y a un péché qui fait qu'on risque de ne pas y échapper. Lequel? Voyons donc ce que dit la Guémara. Kid Rabbi Yaakov Baridi, comme l'enseignement de Rabbi Yaakov Baridi. De Rabbi Yaakov Bar Idi, parce que Rabbi Yaakov Bar Idi ramait. Ramait, ça veut dire mettez en opposition deux versets. Bien, deux versets contradictoires. Ketiv, il est dit, il est écrit, Hine anochi imach ushmarticha bechol asher telech. Voici que je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. D'accord? Cette parole est adressée par Dieu à Yaakov. Au moment de sa sortie en exil, lorsqu'il part chez Lavan, et Dieu lui dit, sache que je te protégerai partout où tu iras jusqu'à ton retour. Ki lo ezofra, je ne t'abandonnerai pas. Ad asher imasiti et asher dibartila, tant que je n'aurai pas accompli tout ce que je t'ai promis, vashivoticha el adama azot, je te ramènerai à cette terre. Donc, Yaakov est assuré qu'il ne lui arrivera pas de mal, puisque Dieu lui a promis que ça allait tenir, qu'il allait le protéger. Urtiv, or il est écrit, Vayira Yaakov Meod, Vayetserlo. Yaakov eut très peur et il fut angoissé. À quel moment? Avant de rentrer en Eretz Israël, lorsqu'il va rencontrer son frère Esaü, qui arrive avec une armée. Et qu'est-ce qu'il dit à Yaakov à ce moment-là? Sauve-moi de mon frère Esaü, Atsilina biyadachim yad Esav, qui arrête anochi oto, car je le crains, pen yavo viikani et malbanim, qu'il ne vienne me frapper, c'est-à-dire m'exterminer, moi et les enfants. Moi, les mères et enfants. C'est-à-dire que Yaakov a eu peur de l'extermination. Ça veut donc dire qu'effectivement, le contexte Shoah, ici, est très clair. Et que c'est juste au moment du retour. Et le problème, c'est donc que juste avant de rentrer, il y a un danger d'extermination. Et Yaakov demande, et il demande à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. Question de Rabbi Yaakov Bar Idi, comment pouvait-il avoir peur alors qu'il avait la promesse qu'il ne lui arriverait rien? Et la réponse, à nouveau, Sheaya Mityare, parce qu'il avait peur. Shema Yigrom Achet, que le péché ne soit la cause. Mais quel est le péché de Yaakov?
Il n'avait pas attendu,
c'est ça? Il n'avait pas attendu.
Avant de partir.
Il n'avait pas cru? Comment ça, il n'avait pas cru? Si, il avait, vous avez vu qu'il n'avait pas cru dans les promesses.
Il avait l'attente. Non, il n'avait pas attendu et Dieu ne le protégeait plus.
Oui. Et vous dites quoi? Malgré la promesse de Dieu. Alors vous dites que le péché, c'est, il avait peur du péché d'avoir peur. Ah, ça n'y a pas la route. On dit qu'il avait... Non, mais justement, mais la Guémara... Non, mais je veux bien, mais la Guémara nous dit qu'il avait peur à cause d'un péché. Or, vous dites que c'est sa peur qui est le péché.
Non, la la peur, c'est de perdre la protection divine.
Il a trop attendu.
Alors, vous dites parce qu'il avait trop attendu. Vous avez bien raison. Mais en fait, je veux prouver un peu ce que vous dites, simplement. C'est que Yaakov dit, quand il envoie un message à son frère, il dit « Im Lavan Garti ». J'ai résidé chez Lavan. Nous avons un midrash qui nous dit « Tariag mitzvot shamarti ». J'ai observé, j'ai conservé plus précisément, j'ai conservé les 613 commandements. C'est-à-dire, non pas qu'il les a accomplis, on ne peut pas accomplir les 613 commandements, surtout pas en galoute, mais il dit « J'étais fidèle ». C'est-à-dire que Yaakov savait très bien qu'il n'avait pas fait de transgression. Donc, le péché dont il est question n'est pas une transgression du Shulchan Aruch, puisque il a observé les 613 commandements. Mais la suite du verset, c'est « Vaehar ad ata ». Je me suis attardé jusqu'à présent. C'est le retard. C'était quoi cette histoire du retard? Pourquoi est-ce que Yaakov est en retard? En retard de quoi exactement? Il y a eu un moment où Dieu lui a dit de revenir. C'était quand? Il lui a dit ça très tard, mais Yaakov avait décidé de revenir plus tôt. Au moment de la naissance de Yosef, au moment de Vayik Asher Yalda, Rachel et Yosef, ce fut lorsque Rachel engendra Joseph, Vayomer Yaakov le Lavan, que Yaakov dit à Lavan, Shalcheni, renvoie-moi. Ve'elechel mikomi ou l'arti, que je revienne à mon lieu et à ma terre. C'est-à-dire, il y a eu un moment où Yaakov a considéré la naissance de Yosef, c'est le début du messianisme, Mashiach ben Yosef, on peut rentrer, il y a la déclaration Yosef, c'est le moment de revenir. Et à ce moment-là, il reste encore 6 ans. Pourquoi 6 années supplémentaires? Pour son salaire. Le salaire de Yaakov. Et il y a toute une histoire avec les brebis, les chèvres, la couleur des chèvres, tout un truc extrêmement long pour donner le salaire de Yaakov. Ça prend 6 ans. Maintenant, et à cause de ce temps-là, entre-temps, Esav a le temps de former son armée, et c'est là que Yaakov a peur. Et le problème, c'est, mais pourquoi est-ce que Yaakov reste si longtemps pour son salaire? C'est bizarre quand même. À part ça, vous vous rappelez que Yaakov lui-même avait demandé pour lui-même du pain et des vêtements. Lechem lechot begel ilbosh. Donc ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'exigences. Brusquement, il veut se faire une fortune. Il y a quelque chose qui cloche. À part ça, si c'est vrai que le problème de Yaakov, c'était le péché du retard, au moment du retour. Alors, Rabba, il connaît le truc. Rabba, Naka,
ne pas tarder.
La déclaration Balfour, Rabba fait ses valises, il s'en va. S'il connaît déjà le système, il sait comment ça fonctionne, eh bien, au moment où commence le processus, part d'Europe, arrive en Palestine. Donc, c'est encore plus incompréhensible, cette histoire. Vous avez compris ma question? En fait, c'est que Rabba sait que puisqu'il est un tzaddik, il va fonctionner comme Yaakov. Parce que c'est parce que Yaakov est tzaddik qu'il va rester encore 6 ans. Pourquoi? Le salaire de Yaakov, c'est la raison de son exil. Pourquoi est-ce qu'on part en exil? Que dit la Torah? Quand Dieu dit à Abraham que ses enfants iront en exil, il lui dit, finalement, ils sortiront avec de grandes richesses. Vacharechen yetsu birchush gadol. Donc si on fait le bilan de la galoute, c'est une perte sèche, parce que on était en Eretz Israël, on part en Chutz Laaretz. Après, on revient. Donc, on n'avait qu'à ne pas y aller. Oui, mais il y a également le salaire. C'est-à-dire le salaire de la galoute. C'est-à-dire, on est parti en galoute pour faire beaucoup d'argent. C'est comme si Dieu disait à Abraham, écoute, tu sais, tes enfants vont souffrir, ça sera très dur, ça va durer 400 ans, mais finalement, il y aura beaucoup d'argent. D'accord? Comme si ça valait la peine. C'est quoi cet argent en question? Ça veut dire qu'en fait, Yaakov est descendu chez Lavan pour amener des bruits, pour amener des moutons. Oui. C'est quoi les moutons de Yaakov? Il y a un enseignement chassidique d'un des maîtres du chassidisme dont j'ai oublié le nom, qui lorsqu'il chantait un chant, un nigoun, Il disait, ce nigoun, je l'ai appris de la bouche de Yaakov Avinu lorsque j'étais une brebis dans son troupeau. Il rentrait le soir fatigué et il chantait ça dans mes oreilles. Vous y croyez? Si vous y croyez pas, vous êtes des hérétiques. Alors vous y croyez? Ah, monsieur, si vous y croyez, c'est que vous êtes des imbéciles. Il faut choisir. Soit hérétique, soit... Donc, en fait, non. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire la racine des âmes d'Israël, ça se trouve portée par les brebis de Yaakov. C'est ce qu'on appelle chez les kabbalistes les étincelles de sainteté, les nitzotzot akedusha. Et bon, à chaque fois, ça prend une autre forme. C'est-à-dire que à chaque fois, ça prend la forme d'un contenu culturel donné. D'ailleurs, Manitou avait cette habitude de dire que en Eretz Israël, c'est le seul pays dans lequel il n'y a pas de juifs. Oui, vous savez qu'il y a des juifs en France, il y a des juifs en Russie, en Amérique, au Yémen, etc. Ici, vous avez des Français, des Américains, des Russes, des Yéménites, etc. C'est-à-dire que nous sommes les 70 nations revenues. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un juif est différent d'un autre? Pourquoi un séfarade est différent d'un ashkénaze? Ce qui fait que le juif est séfarade, c'est le goy chez lequel il a vécu. Et ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il y a un conflit communautaire en Eretz Israël entre un séfarade et un ashkénaze, ça veut dire qu'il y a deux goyim, un goy de Pologne et un goy du Maroc, qui s'affrontent à travers deux juifs. C'est-à-dire que nous sommes les porteurs des traces des nations que nous avons traversées. Et donc il y aurait ici un secret qui serait la restitution de l'identité humaine originelle qui a éclaté en 70 nations et qui est en train de se reformer. Et à chaque époque de l'histoire, ça prend une autre forme, ces étincelles. Aujourd'hui, ce sont des contenus culturels. Eh bien, du temps d'Yaakov, c'était les brebis de Lavan. Donc, la vanne, c'est pas des blagues. Et c'est quelque chose de très sérieux. Et donc, ce qui s'est passé... Pourquoi il rigole, celui-là? Ce que dit Rabat, c'est qu'au moment du retour, on ne peut pas ne pas s'attarder. Parce que Yaakov veut être certain que son exil chez la vanne sera le dernier. S'il oublie une seule brebis, il devra y repartir. Donc Yaakov peut être sûr. On n'a rien oublié. On n'a rien oublié, donc on va rester peut-être un peu trop longtemps. Il y a un risque. Rabat sait qu'il est comme Yaakov. Il sait qu'il risque de rester trop longtemps. Donc il a peur. C'est ça que dit en fait Rabat. Shema Yigro Machet. C'est ce manquement-là qui risque d'entraîner ma perte dans la Shoah, même si je suis tzadik comme le veut Rabbi Lazare. Vous avez compris le principe? Oui.
Pourquoi est-ce que la protection divine s'arrête si on retarde, si on est en retard?
Oui. Bon, là, ça fait partie, à nouveau, du sujet d'étude extrêmement très vaste de la Shoah. Il y a un enseignement très profond de Manitou autour de ça. Mais je pense que dans votre question, il me semble que vous êtes un peu informé. Oui, vous avez entendu. Oui. Ah, la Michelle vous a parlé de ça. Voilà, c'est ça. Donc, disons qu'il y a une promesse faite par les prophètes que la Shoah n'aura pas lieu. Tant qu'Israël devra être en exil. C'est-à-dire, quand on voit ce qu'est la Shoah, on peut se demander, mais comment se fait-il que c'est arrivé si tard, quand on connaît l'accumulation de haine des nations pour Israël, pendant tout le temps de l'exil, on se demande, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt? Eh bien, parce qu'il y a une protection particulière. C'est-à-dire, cette protection est contre nature. La nature de l'exil, c'est de nous exterminer. Et pourtant, on a tenu. Mais c'est jusqu'au moment où la Shekhina doit être là-bas. À partir du moment où elle se déplace pour revenir ici, alors on est livré au danger de l'aléatoire. D'accord?
Il y avait une très belle image. Il dit, on croit qu'on se trouve devant un précipice, et quand on se retourne, c'est un tout petit pli qui était tendu, qui suffisait de sauter. Et les trois arguments qui le rendaient malade, quand on refusait l'alia, un lui avait dit, je ne peux pas parce qu'il fait trop chaud. Le deuxième, il avait dit, il n'y a pas toutes les variétés de fromage. Oui. Et le troisième rabbin très connu lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai une belle maison de campagne.
Oui. Oui. Les fromages, bon, ça dépend. C'est, vous préférez plutôt parler de la baguette. La baguette, parce que la baguette, c'est un pain étroit, tsar, pâte. Et donc, c'est effectivement, on ne peut pas faire, on peut pas faire la même chose ici. Oui. Donc, oui. Ah, si déjà vous parlez du problème de la belle maison de campagne, Manitou racontait qu'une fois, un chrétien, un homme d'église, lui a dit, je suis arrivé à la conclusion que c'est le judaïsme qui a raison. Et alors Manitou lui a demandé, mais enfin, pourquoi est-ce que vous ne vous convertissez pas au judaïsme? Il lui a répondu, parce que je suis alsacien et que j'aime la choucroute. Et alors Manitou lui a dit, mais il y a de la choucroute cachère. Il a répondu, oui, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, on est ce que l'on mange. C'est-à-dire, cet amour de l'alsacien pour sa choucroute, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une création de Dieu. D'accord? Ça s'appelle le cholestérol. Maintenant, revenons donc à notre texte. Donc, nous avons ici, pour l'instant, trois opinions. Nous avons celle de Oula, qui a peur de la chilonoute. Nous avons celle de Rav Yosef, qui lui a étudié les enseignements du Rav Kook, qui n'a pas de problème. Et vous avez Rabat, qui a peur de la Shoah. D'accord? J'étais très, très schématique. Passons maintenant à la suite. Et là, nous allons avoir une surprise gigantesque. Vechen Amar Rabbi Yohanan. Et de même, a dit Rabbi Yohanan, Yete Vela Yahmine. Qu'il vienne et que je ne le vois pas. Alors là, ça ne va pas du tout. Pourquoi est-ce que Rabbi Yohanan, lui, aurait peur? Rabbi Yohanan n'a aucune raison valable, en tout cas pas les raisons de Oula et de Rabba. Parce que Oula n'est pas quelqu'un qui a peur de la chilonout, de la laïcité. Parce que Rabbi Yohanan était celui qui a fait faire Teshuva au plus grand des brigands de sa génération. Resh Lakish, son beau-frère, qui était un brigand de grand chemin, et Rabbi Yohanan lui a dit, si tu te consacres à l'étude de la Torah, tu épouseras ma sœur, qui est encore plus belle que moi. Rabbi Yohanan était très beau, dit, ma sœur est encore plus belle que moi, et tu l'épouseras. Effectivement, Resh Lakish a épousé la sœur de Rabbi Yohanan, il est devenu son chavruta. Ça s'est fini tragiquement, mais ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, alors quelqu'un m'a répondu une fois dans un cours que j'ai donné là-dessus, il m'a dit, oui, mais Rabbi Yohanan n'avait qu'une sœur. Or, si c'est toute une génération, comment faire? Bon, mais en tout cas, Rabbi Yohanan est celui qui a dit que même ceux qui sont vides en Israël, rekanim chez Bé Israël, ils sont remplis de mitzvot comme une grenade. Donc on voit bien que Rabbi Yohanan, lui, ça l'embête pas. Les non-religieux, les anti-religieux, ils se débrouillent très bien avec ça. Maintenant, Rabbi Yohanan, à part ça, n'a pas à craindre la Shoah. Parce que Rabbi Yohanan, contrairement à Oula et Rabba et Rav Yosef, lui, il habitait en Eretz Israël. Or, il savait très bien que la Shoah n'atteindrait pas Eretz Israël. Puisqu'il a lu en toutes lettres dans la paracha de Ahazinu. Puisqu'il est dit, « Mihutz teshakel cherev ou mehadarim emma » à l'extérieur, l'épée désenfantera, et à l'intérieur, il n'y aura que la peur. C'est-à-dire, à l'intérieur, en Eretz Israël. On savait donc très bien, dès le départ, que la Shoah n'atteindrait pas Eretz Israël. Donc, pourquoi est-ce que Rabbi Yohanan, lui, a peur? Il ne veut pas de l'avenue du Mashiach. Il y a quelque chose d'autre qui le préoccupe. Ah bon? Alors là, nous avons à nouveau l'intervention de l'élève. L'élève, c'est, dans ce cas précis, Rabbi Elazar. Non, pardon, Resh Lakish. Resh Lakish, qui est son beau-frère, qui a fait Teshuva chez lui. N'est-ce pas? Amar le Resh Lakish. Maïta ama? Allez-y. Ah, vous avez raison! Mais vous avez raison!
C'était volontaire.
Non, c'est pas volontaire. Vous avez tout à fait raison. Je vous remercie profondément. Voilà. Donc, je reprends ici. J'ai sauté ici quelques lignes. Kedetania, comme on l'a enseigné, Adiavor Amcha Hashem, jusqu'à, c'est dans le cantique de la mer rouge, jusqu'à ce que passe ton peuple éternel, jusqu'à ce que passe ton peuple que tu as acquis. Adi Avoham Ra Hashem, Adi Avoham Zukanitaï. Donc il est question de deux fois le passage. Et alors, la Guémara comprend qu'il s'agit ici de deux passages, de l'entrée en Eretz Israël du temps de Josué et de l'entrée en Eretz Israël du temps de Ezra. Adi Avoham Ra Hashem, Zobia Rishona, c'est la première entrée. Adi Avoham Zukanitaï, jusqu'à ce que passe ton peuple que tu as acquis, Zobia Shnia, c'est la deuxième entrée. Et mort me'ata, il faut donc en conclure, Réouim a eu Israël à Asot la Hemnes, qu'Israël méritait un miracle. Bebia shnia kebia rishona, lors du deuxième retour comme lors du premier. Et là, Shegara machet, mais le péché a entraîné. C'était quoi le péché de l'époque du deuxième temple? Eh bien, c'est que les Hébreux se sont attardés en Babylonie. Exactement, ça confirme ce que nous disons. C'est-à-dire, il y a eu un refus du retour. Et ça, ça ne dépend que des enfants d'Israël. Et donc, il peut y avoir, effectivement, il y a eu le danger de la Shoah à l'époque avec Haman et le rouleau d'Esther. Ça veut dire que l'interprétation est confirmée par la Beraïta. Voilà, ça c'était donc pour compléter. Merci beaucoup de votre gentillesse. Et donc, je reviens ici à l'enseignement de Rabbi Yochanan. Vechen amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan aussi disait, « Yete qu'il vienne ». Vela Ihmine, que je ne le vois pas, Amarle Resh Lakish Maïta'ama. Et Resh Lakish, son élève, lui demande quelle est la raison. Même tête, c'est les initiales de Maïta'ama. Quelle est la raison? Il aima Mishum Dirtiv, peut-être à cause de ce qui est écrit. Il amène un verset de Amos, chapitre 5. Et donc, Resh Lakish propose une thèse qu'il suppose être celle de Rabbi Yochanan. Il dit peut-être que Rabbi Yochanan pense que c'est ce verset qui fait problème. Ah, quel est le verset qui fait problème? En fait, on va voir que ce n'est pas ça du tout. Mais Resh Lakish pensait que c'était ça. Il est même chose, parce qu'il est écrit « Ka'asher yanus ish mipene ha'ari » Ce sera comme un homme qui s'enfuit de devant un lion. « Ufga'o adov » et qui rencontre un ours. « Uva habayit » Il entre dans sa maison, Vesamach Yado Elakir, et il appuie sa main contre le mur, Unchachon Achash, et un serpent le mord. Alors, rendez-vous de la situation. Vous rencontrez un lion, vous le fuyez, un ours arrive, vous rentrez dans la maison, posez la main sur le mur, du mur sort un serpent. On n'y échappe pas. D'accord? C'est la tuile. Alors, or, ce que dit Amos, il parle des événements en Eretz Israël du temps de la Géoula. Donc, Rabbi Yochanan a peut-être peur de ça. Des événements difficiles et tragiques qui se passent en Eretz Israël, dans l'État d'Israël, au temps du retour. Peut-être que c'est ça qui fait peur à Rabbi Yochanan. Voyons de quoi il s'agit. Amarlo, non, pardon, pas Bo ver echa dugmato baolamazé. Alors, Resh Lakish lui dit, mais pourquoi tu as peur de ça? Ce sont des choses qui arrivent même pendant l'exil. C'est-à-dire, les malheurs qui nous attaquent en Eretz Israël, on les connaît déjà en exil. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est pas différent. C'est Ba'olam Hazeh dans ce monde. Dans ce monde, ça veut dire en exil. Bizman chez Adam yotze l'asadeh. Lorsqu'un homme sort dans les champs. Ufgao santar. Et qu'il rencontre un centurion. Domé Kemi Shepagabo Hari, c'est comme s'il avait rencontré un lion. Alors c'est quoi le santar en question? Regardez dans Rashi. Rashi, à nouveau, sur la droite, mais c'est un peu plus haut que le texte, c'est là, n'est-ce pas? Là, santar. Mefaresh Bava Batra, on enseigne dans le traité de Bava Batra, Bar Mechozaniata, c'est-à-dire le responsable du cadastre. Il connaît les limites des champs et leurs frontières. Atkan shel peloni, jusque-là, c'est un tel. Mikan va'elar shel peloni, à partir de là, c'est un autre. Uviado le rabot le echad ou le maet la acher. Et il peut prendre à quelqu'un et le donner à un autre. Urshepogro oto santar, lorsqu'il rencontre ce préposé du cadastre. Rotselimdot sedotav, il veut mesurer ses champs. Les katser metzare asadot, pour réduire les frontières des champs. Vedome, kemi shepagabo hari, ça ressemble à quelqu'un qui a rencontré un lion. C'est-à-dire, on dit, voilà, vous avez construit illégalement, il faut détruire, etc. De toute façon, ce n'est pas à vous, et la Cour suprême a décidé que, et ces frontières, ce n'est pas vos frontières, etc. Et il y a des guerres autour des frontières. Bon, c'est ça que Rabbi Yochanan craint. Comme s'il n'y avait pas de problème de frontières avec la, chacun avec sa mirpesset, son balcon, et qu'il a construit illégalement, etc. Donc, c'est pas, ça ne peut pas être la raison de Rabbi Yochanan. De temps en temps, il y a un sénateur qui nous dit qu'on n'a pas le droit. Nichnas Lahir. Alors, on rentre dans la ville. Un homme rentre dans la ville, après avoir rencontré dans les champs le cadastrien. Là. Pagabo Gabay, il rencontre le préposé des impôts. Domé Kemiche Pugarodov, c'est comme s'il avait rencontré un ours. Les impôts, ça mange beaucoup, n'est-ce pas? Donc, le fait qu'il y ait des problèmes économiques dans l'État d'Israël, mais il y a toujours des problèmes économiques. Il y a toujours des problèmes économiques. Donc, ce n'est pas à nouveau. Ce n'est pas une raison de refuser le temps de la Géoula. Vous voyez que les impôts en hébreu, Mas Hachnassa, c'est la même gématria que Safek. Safek,
ah oui.
Un doute. C'est-à-dire, si vous avez un doute sur vos entrées, le Mas Hachnassa, lui, n'a pas de doute. De même, par exemple, pour ce qui est de Amalek. Amalek, c'est également la guématria de Mas Hachnassa et de Safek. C'est-à-dire que lorsqu'on a un doute par rapport à notre identité, c'est Amalek qui rétablit la certitude de l'identité. C'est-à-dire, vous pensez que vous n'êtes pas juif, oui, mais les lois de Nuremberg ont décidé que vous l'êtes. Et donc il rentre, il voit donc le gabaye, le préposé des impôts. C'est comme s'il avait rencontré un ours. Nichnas le beito ou matza banav ou mnotav mutalim barav. Il rentre chez lui, il voit ses fils et ses filles installés dans la faim, mutalim barav, jetés à la faim. C'est-à-dire ils ont faim. C'est-à-dire quoi? Ils ont faim. C'est pas qu'il y a pas de quoi manger. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle une détresse sociologique. Il y a des problèmes, il y a les drogués, il y a des tas de problèmes comme ça. Domé kemish en shacho nachash. C'est comme quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Donc, ce que dit Resh Lakish, il n'est pas concevable de refuser de vivre au temps de la Géoula à cause des problèmes de l'État d'Israël. Donc, il y a autre chose. Et là, Mishum Dirtiv. Mais c'est parce qu'il est écrit. Alors, finalement, on découvre la bonne raison de la peur de Rabbi Yochanan. Sha'aluna ur'u, c'est un verset dans Jérémie. Sha'aluna ur'u im yoled zachar. Interrogez, voyez, est-ce qu'un mâle peut accoucher? Madua ra'iti kol gever yadav al chalatzav ka yoleda. Alors pourquoi est-ce que je vois tous les hommes avec les mains sur les hanches comme une femme en train d'accoucher? Vene fru kolpanim le yirakon, et tous les visages deviennent livides. Ah bon? C'est quoi ce verset? Ce verset se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 30. Et là-bas, il est question du temps du retour. Et là-bas, il est dit quelque chose, des choses extraordinaires. Que viendra un temps où Israël et Yehuda reviendront à leur terre. Et que après, ils en prendront possession. Ça va très bien. Quand on lit un texte pareil, on est tout content. Et puis après, le texte continue de manière terrifiante. Il dit, il y aura de la peur. Pachad ve'en shalom. La peur, il n'y aura pas de paix. C'est-à-dire comme si quelqu'un avait promis la paix, mais qu'à la place de la paix, il y a de la terreur. Et à ce moment-là, le verset dit, le texte amène le verset que nous venons de lire. Est-ce qu'un mâle peut accoucher? Pourquoi est-ce que j'ai vu tout le monde avec les mains sur les hanches, etc.? C'est-à-dire, et donc, il y a un moment terrible après le retour, et après, le verset dit, continue, je vous lis la suite du verset, « Oy ki gadol ayom haze me'en kamou » il est terrible ce jour-là, il n'y en a pas eu comme lui auparavant, « Ve'et tsara hi le Yaakov » ce sera un moment de détresse pour Yaakov, « Umi mena yivashea » et c'est de là qu'il sera sauvé. Donc, il y a aussi un problème. Si Rabbi Yochanan, qui connaît le texte de Jérémie aussi bien que moi, il sait qu'après que ça va mal, ça va bien. Alors pourquoi il ne veut pas passer par ça? D'accord? Et de quel problème s'agit-il ? Il ne s'agit pas donc des problèmes militaires ou économiques ou sociaux de l'État d'Israël. Il s'agit d'autre chose. De quoi s'agit-il ? Alors, là vient l'interprétation. « Mai raiti kol gever ». C'est quoi j'ai vu tout homme ? Amar Rava Bar Yitzhak, Amar Rav, Mishekol Givura Shelo. Rava Bar Yitzhak, au nom de Rav, dit celui à qui appartient toute vaillance. C'est qui est le possesseur de toute vaillance ? Ben, c'est le bon Dieu. C'est-à-dire, c'est un problème qui posera, qui sera problématique même pour Dieu lui-même. Ah, c'est un problème d'importance. Si même Dieu aura un problème, oh là là. Et c'est quoi tous les visages qui deviennent livides ? Amar Rabbi Yochanan, Pamalia shel Ma'ala ou Pamalia shel Mata. La famille d'en haut, la famille d'en bas. C'est quoi la famille d'en haut ? Les anges. Les anges. La famille d'en bas ? Les enfants d'Israël. C'est-à-dire tout le monde aura un problème. Même les anges auront un problème. Les enfants d'Israël auront un problème. Et c'est ce problème-là qui embête Rabbi Yochanan. Ah, c'est quoi le problème ? Bécha, chez Amar Akadosh Baruch Hu, au moment où le Saint béni soit-il dira, Halalu ma'ase yadai, ceux-ci sont l'œuvre de mes mains. Ve'halalu, et ceux-ci, ma'ase yadai, sont l'œuvre de mes mains. Et ach, ha'abed elu mipene elu, comment détruirai-je ceux-ci à cause de cela ? De qui parle-t-on ? Amar Rav Papa, Rav Papa explique. Haïnu de Amrinche, c'est ce que disent les gens, c'est-à-dire, ça explique le proverbe. Rahit venafal Torah, veazil vechadele soucia beurier. C'est bien clair. C'est-à-dire, c'est une expression en araméen. En courant, le bœuf est tombé. Il est allé et a mis un cheval dans sa mangeoire. Ah ben voilà, mais on a compris le problème de Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, le bœuf est tombé en courant, et on a mis un cheval dans sa mangeoire. C'est ça le problème de Rabbi Yochanan.
Une substitution ?
Quelqu'un a pris la place de quelqu'un. De quoi s'agit-il ? Regardez dans Rashi. Nous avons, Baruch Hashem, nous avons Rashi pour qu'il nous explique tout. C'est le Rashi dit. C'est à la fin de la colonne de droite. Là, il amène l'expression en araméen. Raït venafil Torah vazil le chadé soucia beurier. Le bœuf a fait la course et est tombé. Et il a été remplacé par un cheval dans sa mangeoire. Kesherat hachor venafal. Lorsqu'un bœuf court et tombe. Alors, si un bœuf tombe, il ne peut pas travailler. À quoi ça sert un bœuf ? À labourer, à labourer. Oui, traditionnellement, le bœuf sert à labourer. Mais s'il tombe, il ne peut pas labourer.
Il faut le remplacer.
Il faut le remplacer. Maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'il ne peut pas non plus manger. Parce qu'un bœuf doit se tenir debout. Il ne peut pas donc se tenir à côté de sa mangeoire. Donc, qui va se servir de la mangeoire du bœuf ? Ma'amidim sous bimkomo be'evuso. On met un cheval à sa place dans sa mangeoire. Ce qui suppose que c'est le cheval qui va labourer. Un cheval n'est pas tellement fait pour labourer, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de bœuf, on va mettre le cheval. Ma'sheloa yarotse la asot kodem apalato shel shor. Ce que le propriétaire ne voulait pas faire avant la chute du bœuf. Shaya chaviv alav shoro beyoter. Parce qu'il aimait beaucoup son bœuf. C'est-à-dire, vous savez, c'est un propriétaire, un fermier, qui a des sentiments, lui. Il aime son bœuf. Et donc, il est tout content de donner à manger au bœuf après le labour. Urche mitrape achor ayom olemachar. Mais lorsque le bœuf se guérit, aujourd'hui ou demain, mimapalato de sa chute. Alors maintenant, il est en bonne santé, maintenant, le bœuf. Il peut à nouveau labourer. Il peut également manger dans sa mangeoire. Ah, c'est embêtant. Cachez-le le tsisuso mipene achor. C'est difficile pour lui de faire sortir le cheval pour remettre le bœuf. Le achar sheimido sham, après qu'il l'ait placé là-bas. Vous vous rendez compte, c'est un propriétaire sentimental à bloc. C'est-à-dire, mon pauvre cheval, Il est malheureux, il est attaché maintenant à cette mangeoire. Il pense que c'est sa mangeoire. Il a écrit toute une littérature, des poèmes, pour glorifier sa mangeoire. Il est persuadé que c'est à lui. Mais on lui dit, non, non, tu étais là, tu étais momentanément là, mais maintenant, le bœuf revient, et c'est sa mangeoire. Alors, oust ! On va quand même pas faire ça au cheval. Pauvre cheval, c'est pas de sa faute, on lui a dit que c'était à lui. Maintenant, on va faire sortir le cheval à cause du bœuf. Oh là là, Rabbi Yochanan ne veut pas supporter ça. Il en a les larmes aux yeux. De faire sortir le cheval à cause du bœuf. Le bœuf, c'est Yosef, vous savez. Yosef, c'est le nationalisme d'Israël. Donc Israël revient, et le cheval alors. Car Hakadosh Baruch Hu, de même le Saint béni soit-il. Kevan Sheram Apalatam chez Israël, quand il a vu la chute d'Israël. Noten Gedulato, il donne sa grandeur. Leumot Haolam, aux nations de la terre. Écrit Ovdei Kochavim, mais c'est toujours la censure. Urche Chozrim Israël Bitshuva Venigalim. Lorsqu'Israël fait son retour et est libéré, Kachelo, Leabed Umot Haolam et Israël, il ne veut pas perdre les nations à cause d'Israël. Donc, Rabbi Yochanan a un problème palestinien, un problème moral. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan dit, je sais que ça va se passer comme ça, il y a quelque chose de, il va y avoir un conflit moral et je ne veux pas y être. Il ne veut, comment? Il ne veut pas être là-bas. D'accord? Et, mais alors, c'est ça que Reish Lakish a compris dans la réaction de Rabbi Yochanan. Bon, il y a ici énormément de problèmes. C'est-à-dire que la Guémara ne nous dit pas comment ça sera réglé.
Non.
D'accord. Mais attention, c'est pas si simple. Peut-être qu'on peut laisser une place pour le cheval, s'il accepte que c'est pas sa mangeoire. S'il pense que c'est sa mangeoire, il y aura un problème, il va devoir partir. Mais ce problème qui préoccupe Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, il est le dieu de tout le monde. Ce sont ses œuvres, ce sont ses œuvres. D'accord. Mais on connaît cette histoire, on a déjà vu ça, il y a très longtemps avant, lors de la sortie d'Égypte. À nouveau, lorsque Pharaon poursuit les enfants d'Israël, alors vous savez qu'il y avait là-bas plusieurs groupes qui sont sortis d'Égypte. Ceux que la Torah appelle Ha'am, le peuple, et ceux que la Torah appelle Béné Israël. Ceux que la Torah appelle les Béné Israël sont prêts à faire la guerre. Vahamushim alou Béné Israël. Ils étaient armés, les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte. Mais ceux qu'on appelle Ha'am, ce sont ceux qui sont un peu plus faibles et qui risquent, en voyant les Philistins faire la guerre, repartir en Égypte. Peninahem Ha'am Virota Milchama. Donc on pourrait comprendre que lorsque Pharaon s'approche des enfants d'Israël avec son armée, qui c'est qui va avoir peur? Le groupe qu'on appelle Ha'am. Or, quand Pharaon s'approche, on dit Vaïsou Béné Israël et Ténèbres. Les fils d'Israël ont levé les yeux. Veine Mitzraim Nosea Harem. Ils ont vu que l'Égypte les poursuivait. Vaïreou Meod. Ils eurent très peur. Vaïtzakou Béné Israël et Hachem. Et les fils d'Israël ont crié vers Dieu. Question de Manitou, mais pourquoi ils ont eu peur? Eux, ils sont armés, ils sont prêts à faire la guerre. Que ce soit le peuple qui ait peur, d'accord, mais pourquoi les Béné Israël? En fait, c'est parce qu'ils ont une peur morale. Quelle est la peur morale? Ils ont levé les yeux et ils ont vu dans le ciel que l'Égypte les poursuivait. C'est quoi l'Égypte qui les poursuit? Eh bien, c'est l'ange tutélaire de l'Égypte qui, devant le tribunal céleste, reproche à Dieu de sauver Israël au détriment de l'Égypte. C'est à ce moment précis. Si le pharaon n'avait pas poursuivi les enfants d'Israël, l'Égypte serait restée en Égypte, Israël serait resté dans le désert. Mais là, il y a une poursuite, donc il va falloir faire disparaître soit l'un, soit l'autre. Et donc l'ange tutélaire de l'Égypte s'attaque à l'ange tutélaire d'Israël. C'est quoi un ange tutélaire? Manitou explique, c'est le projet de Dieu pour une nation dans son histoire. Or, dans l'histoire du monde, il y a une place pour l'Égypte, il y a une place pour Israël. Maintenant, est arrivé un moment de l'histoire, il va falloir renoncer à une partie du projet. C'est ça l'ange de l'Égypte, oui?
On dit normalement qu'Israël n'a pas d'ange, n'a pas de
sar. Oui, Israël n'a pas d'ange. Sauf quand il n'a pas de mérite, alors il a un ange. D'ailleurs, c'est pour ça que son ange s'appelle Michaël, qui est comme Dieu. C'est-à-dire, il dit, je ne suis pas en place. D'accord ? Je ne suis pas en place, je ne suis pas à la bonne place. N'est-ce pas ? C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est étrange d'être ange d'Israël. Et donc, en tout cas, il y a ici, s'il y a une intervention de l'ange tutélaire de l'Égypte devant le tribunal d'en haut, ça veut dire qu'en fait, Dieu se parle à lui-même. Il se dit, mais ceux-ci sont des idolâtres, les Égyptiens. Mais ceux-ci seront idolâtres aussi. Ils auront aussi leur iloula, ils auront un fil rouge autour du poignet. Donc, chacun sa religion. D'accord ? Le processus de paix, des tas de choses de ce genre. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'idolâtries qui apparaissent dans l'histoire. Et donc, il n'y a pas de justification à renoncer à l'Égypte au détriment d'Israël, plus qu'Israël au détriment de l'Égypte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu dit à Moshe, « Matitzak Elai, pourquoi est-ce que tu cries vers moi ? Moi, je ne peux pas t'aider. » Et donc, comment le problème a été réglé ? Rabbi Yochanan n'a qu'à étudier ce texte. Or, il ne veut pas l'étudier, il semblerait. Il y a un texte dans la Bichilta, également dans le Talmud, que nos ancêtres, au moment où le Pharaon les poursuivait, se sont divisés en quatre parties. C'est-à-dire, on est en détresse, que font les Juifs ? Ils discutent. D'accord ? Il y a eu quatre opinions différentes. Quelle est la stratégie à adopter ? Et la première stratégie consistait à « jetons-nous à la mer », c'est-à-dire le suicide. C'est-à-dire, on voit que ça marche pas. Eh bien, menons une politique d'autoliquidation, une politique suicidaire. Il faut, on en a fini, ça marche pas. Eh bien, alors tombons à la mer. La deuxième opinion, il y en a qui ont dit « revenons en Égypte ». J'ai là-bas un cousin qui a un garage pour travailler chez lui, j'ai ma place, d'ailleurs on m'a gardé ma place de rabbin là-bas, etc. Donc, on va rentrer en Égypte. Troisième opinion, faisons la guerre. Il y en a qui ont dit, bon, on va se battre. Et les autres ont dit, faisons la prière. Donc, en fait, dans toute situation de ce genre, vous avez ces quatre réactions possibles. Je me rappelle très bien... un jour, lorsqu'il y a eu la deuxième intifada, il était très difficile d'arriver à Hebron. Les gens se faisaient tuer sur les routes, etc. Alors j'ai vu une très grande affiche dans un quartier de Jérusalem, à laquelle écrit « En kochenu elabapé »« Notre force n'est que par la bouche ». Et ils ont écrit « Étant donné la situation terrible, le sang d'Israël est versé, etc. Allons prier sur la tombe des patriarches, amener des tehillim, amener des chauffarotes, nous allons prier, et le bon Dieu, il nous exaucera. » Et en bas, il avait écrit avec la même grosseur de lettre, « La route est protégée par Tzahal. » Bon, je ne sais pas, j'ai cru qu'il y avait une différence entre le titre et la fin. Enfin bon, en tout cas, il y a les quatre opinions. Et alors, Moshe leur dit, « Vayomer Moshe est là, mais Dieu dit, et Moshe dit au peuple, « Itiatsez-vous, retenez-vous. » La Guémara dit, il a dit ça à ceux qui voulaient tomber à la mer. C'est-à-dire, arrêtez le processus. On arrête ça, tout d'abord. Et à ceux qui voulaient rentrer en Égypte, il leur a dit, vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne la reverrez plus jamais. Pour ceux qui ont dit, faisons la guerre, il leur a dit, Hachem ilachem lachem, Dieu fera la guerre pour vous. Et ceux qui ont dit, faisons la prière, il leur a dit, vatem tacharishun, et vous, taisez-vous. Et vous, taisez-vous. Vatem tacharishun. Ça veut dire que, à ce moment, aucune des stratégies n'était valable. Certainement pas celle de désespoir, c'est-à-dire le suicide ou le retour, mais ni la guerre ni la prière. Parce que prier ou faire la guerre, ce sont des réactions normales en situation de détresse. Or, le problème n'était pas de réagir, le problème c'était le mérite. Or, l'argument de l'ange tutélaire de l'Égypte, c'est que il n'y a pas plus de mérite ici que là. Il n'y a aucun mérite à faire la guerre quand on est attaqué. Il n'y a aucun mérite à faire la prière quand on est en détresse. Donc, il y a autre chose qu'il fallait faire. La réponse, ça a été par le cinquième groupe. Le cinquième groupe, c'était Nachshon ben Aminadav, le pionnier, qui lui se jette à l'eau, pas pour se suicider. Il se jette à l'eau pour ouvrir la mer. Il dit, c'est un processus irréversible. L'histoire doit avancer, donc j'ouvre la mer. Et c'est un petit groupe. C'est une personne. Il y a parfois des petits groupes de pionniers qui disent, voilà, vous savez, lorsqu'il y a eu le groupe Bilou, Bilou dans les années 80 du 19e siècle, alors une quarantaine de jeunes étudiants de Russie qui n'ont jamais tenu une pioche et qui arrivent avec leur pioche et qui disent, c'est nous, le peuple juif, qui revient sur sa terre. Ah ouais? Vous avez bien l'air là. Mais ils avaient raison. Ils ont ouvert. Ça veut dire qu'il a fallu un surplus de mérite à ce moment-là en faveur d'Israël en fixant ce qu'on appelle des faits sur le terrain. C'est le fait sur le terrain qui fait avancer l'histoire. Alors dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, je ne le comprends plus. Si ton problème, c'est que Dieu ne saura pas choisir entre l'un et l'autre, eh bien tu n'as qu'à placer quelques caravanes. Après, on arrivera à la Torah, mi-caravane la Torah. Hein? Oui, donc pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a tellement peur? Il a 40. Hein? Oui, mais c'est un fait naturel. C'est naturel de faire la guerre. Tandis que décider de faire avancer l'histoire, de créer des faits sur le terrain, une implantation supplémentaire, ça, c'est un acte de foi. C'est un acte de émouna à la fois foi et acte. Tandis que si vous faites la guerre, c'est seulement un acte. Si vous faites la prière, c'est seulement de la foi. Il faut donc un acte de foi à ce moment-là. En bloc de la foi.
Comme on nous a dit, il faut de la créativité.
La créativité, exactement. Qui c'est qui vous a dit ça?
Je crois que...
D'accord. Et donc... Ce qui doit se passer à ce moment-là, c'est ça. Or, Rabbi Yochanan, lui, devrait pouvoir le faire. Alors, peut-être que Rabbi Yochanan a peur que personne ne le fasse, mais que lui le fasse. Le problème, c'est que Rabbi Yochanan n'était pas capable de faire ça. Pourquoi? Parce que... Non, pas parce qu'il était vieux, pas du tout. Il y a un texte dans le traité de Megillah qui nous dit qu'au moment du passage de la mer Rouge, les anges du service... ont voulu faire un cantique. Un cantique. Et Dieu leur a dit, les œuvres de mes mains se noient dans la mer et vous allez chanter. Maintenant, contre qui est dite cette phrase? Contre les anges. Est-ce que Dieu a reproché aux enfants d'Israël d'avoir fait un cantique? Certainement pas. Au contraire, il est tout content qu'ils aient fait un cantique. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont sur le terrain, eux. Ils ont une partie. Donc, une des parties en présence, on doit être reconnaissant du Créateur, de la délivrance qu'il nous fait. Mais les anges, de quoi ils se mêlent? Les anges, ils font pas partie de l'histoire. Alors, vous les anges, vous vous taisez. C'est-à-dire, le bon Dieu et les anges ont une position de gauche. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, ou bien, si vous voulez, neutre. C'est l'ONU. Mais les enfants d'Israël... Oui, bien sûr. Mais les anges ne doivent pas se mêler. Mais les enfants d'Israël, eux, ils doivent se mêler. Ils doivent faire le cantique. C'est pour ça qu'on dit « Ozi vezimratia vahili lishua ». Je chante à l'Éternel parce que c'est moi qui ai été le sujet de la délivrance. À tel point même que le Talmud nous dit que le roi Ézéchias, Hizkia, a été disqualifié d'être le roi Messie parce qu'il ne voulait pas chanter la délivrance d'Israël à cause des victimes des ennemis. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris position. Et donc, or qui c'est l'auteur de cet enseignement dans le traité de Megillah? Devinez. C'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, s'il vous plaît. Oui, très bien. Bon, donc, Rabbi Yochanan, lui, c'est lui qui a cette sensibilité, justement. Donc, il ne peut pas supporter le passage de ce moment de l'histoire où il va falloir... trancher en faveur d'Israël au détriment d'une nation. D'accord? Mais ça veut dire quelque chose de très important. D'abord, ça veut dire que nous avons ici plusieurs opinions qui refusent de vivre à notre époque. Nous avons Oula, qui a ses raisons. Rabba, qui a ses raisons. Resh Lakish, qui a ses raisons. Rabbi Yochanan, qui a ses raisons. Et donc, ils ont tous demandé à ne pas vivre à notre époque. Et Dieu a exaucé leur demande. Ils ne vivent pas aujourd'hui. Mais nous vivons aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire des actes sur le terrain pour faire pencher l'histoire, pour basculer l'histoire du bon côté. Maintenant, cet enseignement, c'est une série d'enseignements de Manitou que je vous ai donné jusqu'à présent, ça me fait penser à quelque chose de très important. Les trois opinions fondamentales qui refusent la Géoula, la première au nom du problème moral, l'autre le problème de la Shoah, le troisième le problème palestinien. Ça correspond à trois phases de l'identité d'Israël selon le développement de l'histoire. C'était également enseigné par Manitou. Il y a une identité primordiale d'Israël qu'on appelle Yaakov. Et puis après vous avez Israël, et après vous avez Yeshurun. Yaakov, c'est l'identité religieuse d'Israël. Israël en tant que confession, comme disait Manitou. En France, il y a la confession mosaïque, en Israël, c'est une mosaïque de confession. Et donc, on est de confession mosaïque, d'identité religieuse juive. Et puis après, on devient Israël, on redevient hébreu. Vous connaissez cette expression de Manitou, un hébreu d'origine juive, c'est-à-dire c'est le retour de l'identité nationale. Et puis après, on passe à une troisième phase, l'universel. L'universel, d'ailleurs j'ai demandé une fois à Manitou, quelle sera la prochaine phase de la Géoula? Il m'a dit la Torah pour les goyim. Et en fait, ces trois phases-là se retrouvent dans ces trois problématiques. La Shoah qui s'attaque à l'Israël de la Galoute. Et après, vous avez le problème religieux en Eretz Israël. Et puis après, vous avez le problème palestinien qui entrave le message universel. Et il faut savoir surmonter ces trois phases-là pour redevenir l'identité originelle de l'hébreu. Et alors on peut se tromper, on peut penser que l'un est exclusif de l'autre. Or, ce qu'enseignait Manitou, c'est que c'est uniquement dans la convergence des trois identités que se réalise le projet de la Géoula. Donc, si vous voulez, on retrouve ici l'histoire personnelle de l'identité de Manitou lui-même, qui au début se prenait pour un Français de confession juive, et puis qui après a compris qu'il était israélien, et qui après est passé à l'universel. C'est-à-dire qui a compris que l'israélien devient l'universel. Ne pas confondre avec ce qu'on appelle le cosmopolitisme, que Manitou fustigeait évidemment. Oui. Et si vous voulez, on est donc aujourd'hui dans cette phase de passage à deux formes de messianisme. On appelle Machiach ben Yosef et Machiach ben David. C'est-à-dire Israël qui sort de la Galoute, et après la Galoute qui sort d'Israël. Quand la Galoute sort d'Israël, nous retrouvons notre dimension universelle. C'est le moment où nous devons parler avec les nations de ce que nous avons à leur dire. Or, Manitou disait ce qui est très embêtant, c'est que à partir du moment où Israël revient sur sa terre, la question que vont nous poser les goyim, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et là, on se sent bien embêté. D'accord? Parce qu'il faut savoir quoi leur dire. Et en fait, ces préoccupations-là sont les trois préoccupations que nous avons vues dans le texte. Une petite remarque, puisqu'il me reste encore quelques minutes, c'est que... 5, c'est énorme. C'est énorme, 5 minutes. C'est une question qu'on a souvent posée, c'est... Comment disposer, si vous voulez, dans un plan bien clair, les notions de Yosef Yehuda, dont Manitou parlait beaucoup, et de Machiach ben Yosef, Machiach ben David. On se trompe souvent sur l'identification de ces quatre termes. En fait, il n'y a pas simplement Yosef et Yehuda. Vous avez en fait quatre identités différentes, qui sont Yosef, Yehuda, Machiach ben Yosef, Machiach ben David. Ce sont quatre choses différentes. Yosef, c'est la tentation cosmopolite. Yosef est celui qui vit l'exil pleinement. Il est entièrement investi dans la fécondation de l'Égypte. C'est ça, Yosef. Et on trouve à chaque période de l'histoire un Joseph qui est prêt à féconder les nations. Jusqu'au moment où il risque le danger de la perdition par la femme de Poutiphar qui lui dit « Tu es à moi, à ta lit », disait Manitou, quand il disait « Tu es à moi ». C'est quand un Joseph essaie de s'occuper de l'économie des nations. Et puis, vous avez l'opposé à cela, c'est une vanne de Manitou, attention, c'est sacré. La deuxième dimension, c'est Yehuda, qui lui refuse cet investissement et qui est pour le repli sur lui-même. Yehuda reste en Canaan et il va essayer de fonder la famille d'Israël à partir de cette terre, sans rapport avec les nations. Après, il y a le Mashiach ben Yosef, c'est Yosef qui, avec son expérience de la culture politique des nations, quand il voit le début de l'asservissement, demande à être ramené en Eretz Israël. Pakod ifkod Elohim etrem, Dieu vous sauvera d'ici. Ve'alitem et atzmotai mise itrem, vous ramènerez mes ossements au mont Herzel. C'est-à-dire, c'est lorsqu'il a compris le danger que représentait l'assimilation des enfants d'Israël dans la galoute qu'il décide de fonder l'État juif. Ça, c'est le Mashiach ben Yosef. Il se sert pour cela de son expérience de la science politique des nations. Et puis après, vous avez le Mashiach ben David. C'est celui qui va s'occuper de l'universel au nom du retour. C'est-à-dire qu'il va introduire la dimension universelle dans le travail politique fait par le Mashiach ben Yosef. Maintenant, tout cela, c'est extrêmement compliqué. Ça peut se faire de manière simple, relativement sans souffrance. Ça peut se faire par des catastrophes. Or, Manitou était tout à fait conscient du fait qu'il y a des écoles dans l'enseignement d'Israël qui ont envisagé l'éventualité eschatologique d'une catastrophe à la fin de l'histoire. Mais, comme disait Manitou, ça appartient à nous de faire que ça se fasse de manière douce. Amen, Keni Ratzon. Merci de votre attention.
On va commencer par donc Olivier Cohen et qui nous parle donc de la messianité et l'affrontement entre la messianité chrétienne et la messianité juive.
Manitou avait l'habitude de dire c'est l'émotion, mais ça va venir. Donc je disais que Manitou avait l'habitude de dire que l'étude ne se fait pas de bouche à oreille, parce que si on sait ce que la bouche a dit, on ne sait pas toujours ce que l'oreille a entendu. Et alors, en réalité, l'étude se fait de bouche à bouche. Il faut que la bouche dise ce que la bouche a dit. Et donc, comme tout ce que je vais dire vient de Manitou, je vais essayer de respecter cet enseignement et de ne pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites ou des enseignements qu'il n'a pas tenus. Alors, il ne faut pas croire qu'il y a plusieurs personnes qui croient de bonne foi que le monde a été créé idéal et que, à cause de la faute du premier homme, il est devenu imparfait. Quel Dieu accepterait quelque chose comme ça? Le premier homme fait une faute, il mange une pomme, et le monde devient un enfer. C'est incompréhensible. En réalité, dès qu'on lit les premiers versets notre histoire, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre le monde du projet, qui est le monde de vérité, et le monde de réalité. Et le travail de l'homme, c'est d'essayer de faire que par son mérite, on réduise ce décalage et on parvienne à résorber cette tension et cette approximation qui existe entre les deux. Et donc, il faut faire jouer le mérite. Ça part du fondement que Manitou avait l'habitude d'expliquer comme ça, c'est que l'homme a reçu l'être a priori de tout mérite, et il doit passer sa vie à mériter d'avoir existé. Alors, c'est la différence entre la morale laïque et la morale qui vient de la Bible. Dans la morale laïque, faire une bonne action, c'est bien, mais sans plus. Faire une faute, c'est grave, mais sans plus. Alors que dans la morale qui vient de la Bible, ça met en jeu le fait même de la destinée. Ça remet en cause le mérite qu'on doit acquérir pour être. Alors, on a dit qu'il y avait un décalage entre le monde de vérité et le monde de réalité. On a dit aussi qu'on devait essayer de résorber ce décalage par le mérite. Comment est-ce que les choses se passent? Alors d'abord, il y a peut-être une petite parenthèse, c'est que on parle de la faute du premier homme. Alors je ne vais pas bien évidemment faire un développement sur la faute du premier homme, mais sur la faute du premier homme, il y a une première objection qui vient, et c'est l'homme, quand il a fait la faute, n'avait pas mangé encore de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il ne savait pas ce qu'était le bien et il ne savait pas ce qu'était le mal. Et donc il n'a pas fait de faute. Alors en réalité, c'est simplement un problème de traduction. C'est-à-dire que c'est l'arbre de la connaissance du bien et mal. C'est-à-dire que du fait de cette approximation, le mal est dans ce monde, et le bien et le mal nous sont donnés mélangés. Et donc l'homme, pour essayer de réussir à résorber ce décalage entre le monde du projet et le monde de réalité, il doit faire jouer son libre arbitre et distinguer entre le bien et le mal, et choisir le bien plutôt que le mal. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas dans ce libre arbitre de choisir entre un devoir et une jouissance. N'importe quel homme en bonne santé va choisir le devoir plutôt que la jouissance. Mais il s'agit des cas de conscience. Et donc, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on fait un acte, on fait pencher la balance du bon côté ou du mauvais côté, le jugement tombe. Il n'y a pas d'abri à l'écart duquel nos actes peuvent être révisés. Et donc, il faut apprendre cela, mais il faut également l'oublier très vite, parce que c'est très difficile de vivre avec le poids de ce jugement. Alors, donc, je disais que quand on commence à lire le premier livre de la Genèse, on s'aperçoit effectivement qu'il y a à chaque fois un décalage entre le monde dans son intention et le monde dans sa réalisation. Et à chaque jour, chaque élément créé, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un décalage, il y a une intention et il y a une réalisation, il y a une approximation entre les deux, peut-être à l'exception de la lumière, puisqu'il est dit que la lumière soit et la lumière fut, yéhi or, vayéhi or. Pour les autres éléments, il n'est pas dit vayéhi l'élément, mais il est dit vayéhi ren. Et ce que Manitou expliquait, c'est que c'est traduit « il en fut ainsi », alors qu'il faudrait le traduire « il n'en fut qu'ainsi ». Et c'est précisément dans ce « vayéhi ren » que réside l'approximation. Mais c'est une approximation qui est suffisamment proche de la réalisation pour qu'elle soit considérée comme convenable et puisse mériter d'exister. Mais c'est aussi à cause de cette approximation que nous avons le mal qui existe dans le monde. C'est un peu la différence entre la science mathématique et la science physique. La science mathématique, c'est la vérité absolue. Et la science physique, c'est l'application des mathématiques dans ce monde-ci. Et donc, c'est les mathématiques aux conditions de l'expérience près, à epsilon près. Ce epsilon, c'est cette approximation qui existe dans le monde et dont l'homme doit essayer de résorber le décalage. Alors, on a donc ce décalage, monde du projet, monde de réalité, et l'homme doit faire jouer son libre arbitre pour parvenir à résorber ce décalage et à transformer ce monde en monde à venir en utilisant son libre arbitre et en choisissant le bien plutôt que le mal. C'est un thème qui, comme le disait Manitou, est un thème qui est à peu près équivalent à celui de la prière. En réalité, les grands sages hésitent à prier, prier dans le sens à demander quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent quand je prie, qu'est-ce que je fais ? Je dis à Dieu, la façon dont tu gères le monde, ça me convient pas, je voudrais que tu changes ta manière de gérer le monde. Et donc, eux croient et eux disent, il sait ce qu'il fait, donc je n'ai pas à lui demander quoi que ce soit. Pourtant, on dit que Dieu n'exauce que la prière des justes. Donc, on se retrouve dans une situation un petit peu impossible. Et donc, Dieu va faire en sorte de priver le juste de tout pour l'obliger à prier. C'est l'histoire de ce juste qui n'a pas grand-chose et qui est un juste parmi les justes et qui est assez démuni. Et son épouse lui dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Et alors à ce moment-là, il prie, et le lendemain matin, à son réveil, il a un pied de table en or au chevet de son lit. Alors il est content, il a de l'argent, mais il se dit, il s'interroge, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce pied de table en or qui est au chevet de mon lit ? Alors il demande à avoir une explication, et Dieu lui fournit l'explication en rêve. Il est en rêve, il se trouve dans le monde à venir, et il se trouve dans une salle où il y a les justes parmi les justes. Chaque juste est assis à une table en rond. Sous chaque table en rond, il y a quatre pieds en or. Et sous la table du juste, il n'y a que trois pieds en or. Alors il comprend ce qui s'est passé, et donc il fait une prière pour que ce pied revienne de là où il revient. En tout état de cause, on explique que lorsque le juste prie, lorsqu'on prie, on n'a que ce que l'on mérite. Il y a également des justes qui font systématiquement une prière avant chaque prière. Avant chaque prière, ils demandent à ne pas mourir après la prière, que leur âme ne s'envole pas au ciel après cette prière. En réalité, lorsqu'on est, on est en tant qu'exilé par rapport à sa créature, et il faut mériter de revenir de là où on vient. Un homme qui n'a plus de tendance au mal, son âme remonte comme une montgolfière. Alors, le juste, après sa prière, demande à ce que son âme reste sur terre pour éviter qu'elle remonte et donc pour qu'il ne meure pas à la fin de sa prière. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on venait de faire, Manitou s'interroge et dit « Mais comment une âme accepte de descendre sur terre ?» Et donc, il nous explique et il nous dit « Une âme au ciel, c'est comme une fille dans la maison de son père. Alors, il faut qu'elle descende sur terre pour remonter comme une femme dans la maison de son mari. » Alors, quelle est la différence? Une fille dans la maison de son père, elle a tout eu, mais elle n'a rien mérité. Alors qu'une femme dans la maison de son mari, elle l'a mérité. C'est précisément les données de notre problème, c'est-à-dire que on a reçu l'être a priori de tout mérite et on doit passer sa vie à mériter. Et donc on est dans le monde de la réalité qui n'est pas exactement le monde du projet. Et donc le travail de l'homme, c'est de mériter de transformer ce monde-ci en monde à venir. Mais attention, le monde à venir, c'est pas le monde, c'est ici que ça se joue, c'est pas au ciel. C'est-à-dire que Manitou disait cette phrase, il disait « Le monde du ciel, à chacune des périodes de l'histoire de notre peuple, c'est précisément le monde tel qu'il sera dans le monde à venir, ici. » Donc le monde à venir, c'est ici qu'il se joue. Et donc on doit faire jouer notre libre arbitre, préfère le bien plutôt que le mal, pour réussir notre histoire. Et donc au début du livre de Bereshit, du premier livre de la Bible, on a ce récit des engendrements où on va, à travers une lignée particulière à l'intérieur de l'identité humaine, aboutir à ce fils de l'homme qui va être capable de réussir cette histoire, c'est-à-dire de transformer ce monde-ci en monde à venir. On va voir dans l'universel humain, engendrement après engendrement, le progrès d'identité à l'intérieur d'une identité qui va aboutir au fils de l'homme capable d'être frère. C'est-à-dire capable de se comporter de façon morale avec son prochain et donc de réussir de faire se rapprocher le monde du projet et le monde de réalité. Alors pour faire ça, beaucoup, on a déjà beaucoup parlé de tout ça, donc je vais aller assez vite. Mais pour faire ça, il faut installer sur Terre un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont souvent divergentes, parfois même exclusives l'une de l'autre. Il y a notamment la charité et la justice. Alors, la charité, quand je suis charitable, je donne à l'autre simplement parce que c'est l'autre. Si je commence à m'interroger et à me demander pourquoi je lui donne, ou s'il mérite, je quitte la charité et je bascule dans la justice. De la même manière, la justice, c'est condamner toutes les fautes, même les plus anodines. Et à partir du moment où je me demande si je dois sanctionner telle ou telle faute, alors je quitte la justice et je bascule dans la charité. Autrement dit, quand je suis charitable, je ne suis pas juste, et quand je suis juste, je ne suis pas charitable. Mais alors, le problème, c'est comment arriver à faire concilier ces deux valeurs et qu'elles existent. Et donc, Manitou expliquait à travers les engendrements comment ça se passait. On commence avec Abraham, qui est le juste de la charité pure. Abraham sort du récit comme existant déjà. Il n'a pas à se justifier. Abraham essaye de faire tout ce qu'il peut pour sauver Sodome et Gomorre, et on sait que c'est difficile de sauver Sodome et Gomorre. Abraham, c'est le juste de la charité pure. Et à partir de là, il faut réussir à faire jaillir la vertu de justice. Comment du juste de la charité pure on peut engendrer le juste de la justice stricte? C'est impossible. Il faut un miracle. Finalement, ce miracle arrive et Isaac naît. Isaac, c'est le juste de la justice stricte. Il ne devait pas naître, il est né. Il devait mourir, il n'est pas mort. Il a été confronté à la justice dans la mesure où il a reçu l'être et il doit le mériter. Pour le mériter, comment on mérite l'être? Eh bien, il faut le donner. À partir du moment où on est prêt à le donner, il s'acquiert. Et donc, Isaac a été confronté à la justice stricte, c'est le juste de la justice stricte. Et ensuite, il faut réussir à faire émerger le juste, parce que Abraham, c'est le juste de la charité pure, mais c'est pas encore Israël. Isaac, c'est le juste de la justice stricte, mais ce n'est pas encore Israël. Israël, c'est l'unité des valeurs. Et donc il faut réussir à engendrer le fils qui soit à la fois le fils du juste de la justice stricte et le fils du juste de la charité pure. Et finalement, comment ça va se passer? Et on va assister à une stratégie de la Providence qui va faire naître deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Alors, chacun des trois patriarches est accompagné d'une rivalité d'identité qui veut le remplacer. Au niveau Abraham, c'est Lot. Lot est l'identité Lot est asymptote de l'identité Abraham. Lot n'est pas le frère d'Abraham, c'est en réalité le fils de Haran qui meurt dans la fournaise d'Ur-Kasdim, donc c'est le neveu d'Abraham. Mais Abraham et Lot n'arrivent pas à avoir une relation de fraternité. Lot va être écarté dans la sélection des identités, et c'est Abraham qui va être dont on va suivre la suite des engendrements. Après Abraham, à la deuxième étape, il y a Isaac et Ishmaël qui sont frères. Mais Isaac et Ishmaël n'arrivent pas à être frères. C'est Ishmaël qui va être écarté dans la sélection d'identité et Isaac qui va être retenu. Et puis à la troisième identité, effectivement, on assiste à une stratégie de la Providence qui va faire naître deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Jacob a la vocation spirituelle, Ésaü a la vocation matérielle. Mais le récit ne nous dit pas que l'homme de la vocation matérielle est forcément mauvais et l'homme de la vocation spirituelle est forcément bon. C'est pas du tout ce qu'on nous dit. En réalité, l'homme de la vocation matérielle, c'est le monde de la réalité. L'homme de la vocation spirituelle, c'est le monde du projet. Et l'objectif, c'est la réunion, l'unification de la vocation matérielle et de la vocation spirituelle. Il faut réussir à ce que les deux travaillent ensemble et s'unissent. Et donc le plan d'Isaac, leur père, est très simple. Ils sont frères, ils vont s'aimer, ils vont collaborer, on va réussir notre histoire, on va réussir à résorber le décalage, la tension entre le monde du projet et le monde de la réalité. Mais les deux frères ne s'aiment pas, ils vont donc pas collaborer, et c'est Rivka, l'épouse d'Isaac, qui va faire le bon diagnostic. Et lorsque va apparaître un homme qui a les mains d'Ésaü et la voix de Jacob, alors Israël apparaît. Israël, c'est l'homme qui a les mains de l'homme de la vocation matérielle et la voix de l'homme de la vocation spirituelle. Et à partir de ce moment-là, Israël apparaît. Et à chaque fois qu'il y a une perspective à la diaspora, Jacob va être appelé Jacob, et à chaque fois qu'il y a une perspective à l'installation sur la terre d'Israël, Jacob sera appelé Israël. Et il a fallu attendre près de 2000 ans pour qu'on appelle de nouveau les enfants de Jacob Israël. Ensuite, au niveau des engendrements de Jacob, pendant un moment, on se dit l'histoire va se répéter. Ça va être de nouveau, il va de nouveau y avoir une confrontation, un antagonisme dans les identités, puisque très vite, on voit qu'il y a une confrontation entre Judas et ses frères d'un côté, Joseph de l'autre. Mais à la fin du livre de Bereshit, les frères se réconcilient, on répare la relation de fraternité, et en réalité, Joseph achève le livre de Bereshit. Joseph, c'est un premier-né capable d'être frère. D'ailleurs, dès qu'il naît, sa mère, Rachel, dit que le Seigneur m'offre un second enfant. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle sait qu'elle a enfanté un premier-né capable d'être frère, et donc il lui faut un frère. Jacob, de son côté, va voir Laban et lui dit « Renvoie-moi ». L'exil qui a commencé avec Laban s'achève avec Joseph. En réalité, l'exil qui a commencé avec Caïn, qui tue son frère, Abel, s'achève avec Joseph, qui est un premier-né capable d'être frère. Joseph, c'est un premier-né capable d'être frère et qui arrête l'exil qui avait commencé avec Caïn. Il répare la relation de Caïn et Abel, il installe la relation de fraternité dans le monde. Mais les choses n'ont pas complètement réussi et cette réconciliation, elle reste un petit peu fragile parce que l'exil va recommencer. Alors, c'est sûr que il y a deux identités importantes à l'intérieur de l'identité Israël, et étant donné que l'exil va recommencer, on peut imaginer que ces deux identités vont de nouveau se confronter. Joseph c'est une identité, c'est l'identité, c'est la fécondité, pardon. C'est-à-dire, c'est la vocation matérielle. Il se voit comme les étoiles dans la nuit. La nuit, c'est l'exil. Et il veut aller là où le blé pousse pour donner à manger à l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'il se voit, il veut se mettre à la disposition de la civilisation dominante de son temps pour lui apporter les valeurs dont il est porteur. Il veut être le juste de l'exil. La vocation Judas, c'est l'opposé. Judas, c'est, il voit sa vocation sur la terre d'Israël. Et Judas, c'est la vocation, c'est l'identité spirituelle. On a donc une confrontation d'identité à l'intérieur des identités d'Israël entre Joseph d'un côté et Judas de l'autre. Mais bien évidemment, cette confrontation a des racines antérieures. Jacob, c'est un personnage double. Jacob, comme Jacob, préfère Joseph. Jacob, comme Jacob, préfère l'exil. Israël, bien évidemment, préfère la terre d'Israël et Israël a le devoir de préférer Judas. Jacob a deux femmes, Rachel et Léa. On dit de Rachel qu'elle a une belle apparence et on dit de Léa qu'elle a les yeux doux. Les yeux, c'est le reflet de la spiritualité. La belle apparence, c'est la matérialité. Et d'ailleurs, on dit des enfants de Léa que c'est la vocation des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. On dit des enfants de Rachel que c'est la vocation des enfants d'Israël en diaspora. Et précisément, lorsque Jacob rentre de l'exil chez Laban, Rachel va mourir avant d'arriver en terre d'Israël. Lorsque Israël rentre sur sa terre, la diaspora s'éteint. Et c'est vrai que toute ressemblance avec des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui est totalement fortuite. Manitou avait l'habitude de dire, quand on lit le journal, on a l'impression de lire la Bible, et quand on lit la Bible, on a l'impression de lire le journal. Maintenant, c'est vrai que cette confrontation d'identité va recommencer puisque l'exil repart. Et il y a notamment l'exil qui recommence après le règne du roi Salomon et le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Alors, le royaume du Nord, la capitale était Samarie, 9 tribus et demie, c'était, on l'appelait également la maison d'Israël ou la maison d'Éphraïm qui est le fils de Joseph. Donc c'est la vocation Joseph. Le royaume du Sud, qui avait pour capitale Jérusalem, qui était resté fidèle à la tradition d'Israël, qui détenait 2 tribus et demie, était aussi appelé le royaume de Juda. Donc c'était la vocation Juda qui... Et donc le royaume du Nord a cédé le premier face aux Assyriens en -722. Et donc le royaume du Sud est resté comme seul représentant de l'identité d'Israël jusque 2 tribus et demie qui représentaient l'intégralité des tribus d'Israël. Et bien évidemment, ça ne pouvait pas réussir puisque la vocation Joseph et la vocation Juda n'étaient pas unifiées. Et si la vocation Joseph et la vocation Juda ne sont pas unifiées, ça ne peut pas réussir. Et il n'est pas étonnant que finalement le royaume du Sud ait succombé. Alors à partir de là, y a donc ces deux forces à l'intérieur de l'identité d'Israël. Et on va se demander si la controverse qu'on a avec la messianité chrétienne ne vient pas de cet antagonisme qui existe entre la vocation Juda qui est spirituelle et la vocation Joseph qui est... C'est-à-dire qu'on peut voir notre controverse avec la messianité chrétienne sans faire référence à la figure que les chrétiens ont appelée Jésus. On peut voir cette controverse comme l'affrontement de deux figures de la messianité possible. Alors dès le début, bien évidemment, les juifs n'ont pas accepté la messianité chrétienne. Les chrétiens se réclament de la messianité d'Israël. Les uns attendent un messie qui vient, et puis qui revient avec la parousie. Les autres attendent un messie qui vient. Et c'est vrai que c'est une nature complètement différente, puisque ceux qui attendent un Messie qui revient sont dans un temps cyclique, et ceux qui attendent un Messie qui vient, c'est un temps qui amène à un aboutissement, à un achèvement. Il faut faire aussi attention au vocabulaire, parce qu'il me semble que dans la tradition hébraïque, on ne croit pas au Messie. À la rigueur, pour être fidèle à la tradition, on pourrait dire on croit en sa venue, on croit en sa naissance. Et donc à partir de là, on va essayer d'avoir une lecture juive des textes et non plus une lecture chrétienne qui est souvent de refus juif. Manitou avait l'habitude de dire cette phrase. Pendant 2000 ans, les chrétiens nous ont expliqué comment il fallait lire nos textes. Il est temps que nous leur disions comment nous lisons les leurs. Et alors, je vais prendre un texte qu'avait l'habitude d'étudier Manitou. Je ne l'ai pas amené parce qu'on va étudier simplement les trois premiers paragraphes. Vous pourrez vérifier directement dessus. Il s'agit de l'Évangile selon Matthieu, où il y a trois paragraphes. Alors, le premier paragraphe, il y a trois paragraphes qui donnent la généalogie de Jésus. Le premier paragraphe démarre à Abraham, qui engendre Isaac, qui engendre Jacob, qui engendre Judas et ses frères, et on va comme ça jusqu'à David. Le deuxième paragraphe, on démarre à David, qui engendre Salomon, merci, et puis on va jusqu'à la déportation à Babylone. Alors ces deux premiers paragraphes sont tout à fait conformes à notre tradition. Il faut juste retenir que Jacob engendra Judas et ses frères. Et puis il y a un troisième paragraphe où on commence à la déportation à Babylone, et puis on arrive à Jacob qui engendra Joseph, qui est l'époux de Marie qui enfanta Jésus. Donc autrement dit, on a trois paragraphes de 14 générations chacune. Le premier part d'Abraham, passe par Jacob et les enfants de Judas pour arriver à David. Le deuxième part de David pour arriver à la déportation à Babylone. Et le troisième part de la déportation à Babylone, passe par Jacob qui engendra Joseph, l'époux de Marie. Autrement dit, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'il y a deux messianités possibles. Une qui passe par Judas et une autre qui passe par Joseph. On s'aperçoit également qu'il y a un certain nombre de coïncidences, et on peut se demander si les choses sont réellement mises ici par hasard, ou est-ce qu'il n'y a pas là un message secret de la manière dont les textes religieux codent leurs textes pour faire expliquer un certain nombre de choses, et notamment comment ce à quoi les fondateurs du christianisme pensaient quand ils ont réalisé cette messianité. Alors, il y a bien évidemment la première coïncidence, c'est Jacob qui engendra Judas et ses frères, et parmi les frères, il y a un Joseph, et puis Jacob qui engendra Joseph, l'époux de Marie qui enfanta Jésus. Il y a une deuxième coïncidence, c'est qu'il y a effectivement 12 tribus qui viennent des 12 fils d'Israël. Il y a 12 apôtres. Pardon ? Oui. J'ai pas compris ?
Non, pardon, oui.
Et il y a donc 12 tribus et il y a 12 apôtres. Et on peut se demander, malgré la symbolique du chiffre 12, s'il n'y a pas un lien ou s'il n'y a pas 12 apôtres parce qu'il y a 12 tribus. Il y a également un thème qui traverse l'identité d'Israël, et ce thème, c'est l'infertilité des mères d'Israël. C'est-à-dire que Sarah a du mal à enfanter, Rivka a du mal à enfanter, Rachel a du mal à enfanter, et Anna, la mère de Samuel, le prophète qui découvre David, a du mal à enfanter. Et c'est un thème qui traverse l'identité d'Israël parce qu'on est précisément dans cette lignée de la progression des identités qui doit parvenir à la réussite de notre histoire. Et donc, à chaque fois, il y a c'est lorsque l'histoire peut réussir qu'il y a un obstacle. L'obstacle ne se fait l'adversaire que de ce qui peut réussir. Et tant que l'enfant attendu n'est pas l'enfant qui doit naître, alors il y a un obstacle, il y a un empêchement. Si de cette lignée naissait Amalek, alors ce serait une catastrophe. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a une infertilité, on ne va pas dire stérilité, puisque finalement, ces mères enfantent, et elles enfantent la lignée, mais il y a une infertilité, il y a une résistance. Dans le cas de Abraham et Sarah, il y a une résistance du côté de Sarah, mais il y a aussi une résistance du côté d'Abraham, puisque Abraham, on lui promet qu'il va avoir un fils, mais le fils n'arrive pas. Et pourquoi le fils n'arrive pas, pourquoi il y a un obstacle du côté d'Abraham? C'est qu'Abraham doit devenir celui à qui les promesses sont faites. Et donc il doit faire un travail au niveau des valeurs morales pour accéder à une mutation et devenir celui à qui les promesses sont faites. Et alors, le fils pourra naître. Donc, on voit qu'il y a un thème qui traverse l'identité d'Israël, et ce thème, c'est l'infertilité des mères d'Israël. Et ce thème est repris avec, peut-être poussé à l'extrême, à la limite, avec Marie, qui est une matrice éternellement vierge et éternellement féconde. Et puis, il y a bien évidemment une dernière coïncidence, et cette coïncidence, c'est qu'on est un peu surpris de voir que l'antagonisme principal de Joseph parmi les apôtres, c'est un certain Judas, avec un S, celui-là. Et donc, on peut se demander, c'est, est-ce que la messianité chrétienne n'a pas repris à son compte cet antagonisme, cette confrontation dont on vient de parler, entre Judas et Joseph? Parce que si on lit et on suit le livre des évangiles selon Matthieu, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a une première tentative. Cette première tentative, elle passe par Joseph, puis Judas et ses frères. Et cette première tentative, elle aboutit à un échec. Puis il y a une deuxième tentative. Et cette tentative, elle passe par Jacob, puis Joseph, l'époux de Marie qui est enfant de Jésus. Et celle-là va réussir. Autrement dit, la messianité chrétienne... Elle refuse le pilier Judas. Dans les textes chrétiens, quand on parle de Judas, on parle des Juifs. Et quand on parle de Joseph, il s'agit de l'époux de Marie qui enfante Jésus. Donc, il y a un dialogue difficile entre d'un côté les Juifs et d'un côté les chrétiens, dans la mesure où, dans la messianité chrétienne, on se prive du pilier Judas. Et on choisit le pilier Joseph. Alors maintenant, il faut faire attention, parce que bien entendu, pour que notre histoire réussisse, il faut l'alliance entre Judas et Joseph. Dans la première partie de notre histoire, c'est la vocation Joseph qui est dominante. Joseph va en Égypte, il amène toute sa famille en Égypte, il se déguise en Égyptien, il est vice-ministre, on le prend pour un Égyptien, ses propres frères ne le reconnaissent pas, ils le prennent pour un Égyptien. Et puis dans la deuxième partie de notre histoire, c'est la vocation Judas qui est dominante. Seuls ceux qui ont fait le constat que la vocation Joseph seul aboutissait à un échec sont sortis d'Égypte et ont reçu la révélation. Les autres, il y a 4/5 des Hébreux qui ont dit à Moïse « Tu bégayes, tu n'y connais rien à notre religion », qui n'ont pas suivi Moïse, ils ont disparu dans les sables du désert. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la figure de Moïse, c'est le calque dans un miroir de la figure de Joseph. Moïse, c'est la fin d'un cycle qui commence à Joseph. Joseph, c'est un Hébreu qui va en exil, qui veut s'assimiler et qui se déguise en Égyptien. Il met sa tunique égyptienne et il devient égyptien. Moïse, c'est l'Hébreu, mais un Hébreu enfoui profondément à l'intérieur. Il est déguisé, il est camouflé, il a un déguisement. Il va retirer ce déguisement et il va retrouver la racine de son identité qui est hébraïque et qui va rentrer chez lui. Mais attention, Joseph, au dernier moment, reste Hébreu. Il reste Hébreu. Il demande à ce que ses ossements soient enterrés en Israël. Il refuse que ses gendarmes passent par la matrice de la civilisation dominante de ce temps-là, la femme de Poutiphar. Il y a donc bien cette confrontation entre, d'un côté, Joseph, de l'autre, Judas. Joseph qui représente la vocation matérielle, Judas qui représente la vocation spirituelle. Et on voit cette fracture exister aujourd'hui dans notre société. On a souvent repris cette phrase, Maase avot sinam labanim, ce que font les pères est un signe pour les fils. Nous sommes interpellés en tant que collectivité de l'interpellation à laquelle ont eu à répondre les grandes figures de notre histoire. Ce qui nous arrive en tant que peuple, en tant que collectivité, était déjà préfiguré à la racine dans le récit que la Bible nous fait des grandes figures de notre histoire. Et il y a certaines tendances d'identité qui auront des comptes à rendre dans les générations qui viennent. Et c'est précisément ce qu'on voit. On voit la cassure qui existe dans notre société. Il y a des juifs qui font le choix d'aller vivre en Israël pour être juifs, vraiment. Et il y a des juifs qui font le choix d'aller en Israël pour ne plus être juifs, vraiment. Et c'est le résultat de cette histoire, de cette brisure, cette cassure d'identité qui existe entre, d'un côté, la vocation matérielle et de l'autre, la vocation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui rentrent en Israël parce qu'ils veulent être religieux, ils veulent faire Shabbat. Et il y a des juifs qui rentrent en Israël parce qu'ils veulent être nationaux. Alors, ces deux tendances sont en train de se diagnostiquer. Il faut qu'elles se reconnaissent, il faut qu'elles arrivent à s'allier pour que précisément notre histoire réussisse. Mais c'est vrai que les choses sont en train apparemment d'avancer, puisqu'on a assisté récemment à ce que Manitou appelait le paradoxe de l'inversion des valeurs complémentaires. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir, Joseph a pris le visage de Judas, et Judas, pour pouvoir réussir, a pris le visage de Joseph. Qui se réclame de l'identité spirituelle, religieuse, aujourd'hui, officiellement, c'est la diaspora. Même si les choses sont en train un petit peu de changer, c'est la diaspora. Qui se réclame de l'identité d'Israël en tant que nation ? C'est Israël, bien entendu. Or, concrètement, c'est l'inverse. Le juif de Joseph, c'est la diaspora. Le juif de Judas, c'est la spiritualité, c'est la religion. Alors, l'avènement de la création d'Israël a créé un petit bouleversement, notamment au niveau de la messianité chrétienne. Pendant 2000 ans, on nous a dit, les chrétiens nous ont dit en toute bonne foi, Israël, c'est le chrétien. Et l'histoire nous explique que finalement, c'est pas comme ça qu'il s'agit. C'est pas de ça. Les choses sont un peu différentes. Mais alors l'Église, qu'est-ce que c'est ? Et en réalité, on est en train de s'apercevoir qu'est en train de se constituer deux diasporas d'Israël. Il y a une première diaspora d'Israël qui est juive, qui est fidèle à notre tradition, mais qui se coupe de la vocation juda, qui ne souhaite pas rentrer en terre d'Israël. Les choses ont été dites, ont été permises depuis 1917, et il y a beaucoup de juifs qui ont retrouvé la racine de leur identité, qui ont ôté leur tenue de déguisement, leur camouflage, et qui sont redevenus hébreux. Mais lorsque les barrières vont se refermer, alors il sera trop tard. Et puis, il y a une deuxième diaspora, elle a fait le choix de la messianité Joseph, c'est la diaspora chrétienne. Et en fait, on est en train de s'apercevoir que ces deux diasporas sont en train de se ressembler. Finalement, il y en a une qui se prive de la vocation Juda, il y en a une qui fait le choix de la vocation Joseph. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que dans les temps qui viennent, il y ait un antagonisme entre ces deux diasporas pour savoir laquelle est précisément la diaspora authentique d'Israël ? Merci.
Shalom à tous et à toutes. Et d'après ce que je comprends, bienvenue en Israël pour cette semaine rapide d'études pour la plupart de vous. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, j'ai connu Manitou avec le lait de ma mère, parce que en fait, j'ai grandi à la maison, dans une maison où quand on parlait des divrei Torah, des paroles de Torah, c'était l'enseignement de Manitou. Dès qu'il y avait une question surtout profonde, on savait que les réponses qui étaient pertinentes, les réponses à toutes les grandes questions de la vie, on entendait les réponses de Manitou. J'ai eu la chance dans la maison de mes parents aussi d'entendre l'enseignement de Régine Lehmann, Zichrona Livracha, qui était l'élève de Manitou. Après que Manitou ait fait son aliyah, elle continuait en France à perpétuer son enseignement. Et j'ai aussi eu la chance, quand j'ai fait mon aliyah, de pouvoir étudier et entendre son enseignement de vive voix ici à Jérusalem, dans différents endroits. Voilà, en tout cas, c'est mon lien avec Manitou. Je voudrais dire encore une chose qui est beaucoup plus importante, c'est que j'ai beaucoup de maîtres, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de maîtres, mais pour tout ce qui est des questions essentielles, quelle que soit la question, je peux dire que la réponse ou les réponses les plus profondes, les plus pertinentes, étaient les réponses que j'ai apprises de Manitou. C'est-à-dire que l'enseignement de Manitou, et je m'imagine qu'avec cette semaine, pour ceux qui étaient plus novices et pour ceux qui connaissent déjà l'enseignement de Manitou, la profondeur et la pertinence de cet enseignement dépasse, on pourrait dire, le temps de Manitou. On est 20 ans après, et comme Olivier aussi l'a l'a bien dit, les crises d'identité qui sont en Israël ou qui sont dans le monde sont, les questionnements qui sont, on a des réponses, et les réponses de notre maître, de Manitou, sont toujours aussi actuelles, et même, je dirais, en Israël, de plus en plus actuelles, ce qui se traduit par le fait que le monde israélien hébraïque découvre de plus en plus, grâce aux livres comme celui-là que j'ai amené, énormément de littérature et de personnes qui enseignent en Lashon HaKodesh, c'est-à-dire en hébreu, l'enseignement de Manitou, et j'ai la chance, le mérite, le zechut, vous avez parlé de mérite, de pouvoir le faire ici à Jérusalem. Et on n'aurait pas, si on s'était concerté, on n'aurait pas pu, de manière plus précise, je dirais, passer d'un cours à l'autre, puisque je ne sais pas si je dois te tutoyer ou vous voyez, Manitou y tutoyait tout le monde. Donc je te remercie pour ton intervention et cette transmission de l'enseignement de Manitou. Et comme tu me l'as demandé, le titre plus ou moins, c'est de faire un constat en Israël de cette question messianique, c'est-à-dire où se trouve-t-on aujourd'hui en 2016, on pourrait dire, dans l'enseignement dans la réalité messianique telle qu'elle a été promise par la Torah et par nos sages. Alors tout d'abord, je vais pouvoir d'ailleurs raccourcir la première introduction, mais je ferai quand même un point qui est extrêmement important. Je vais continuer sur cette messianité des deux messies qui sont Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, selon l'enseignement du Gaon de Vilna, du Gras, ce qu'on appelle le Gras Gaon Rabbi Eliyahu, dans son livre qui s'appelle le Kolator, entre autres, et ensuite dans l'enseignement du Rav Kook, dans un texte qui s'appelle Amisped, la Mashiach, c'est l'oraison que Rav Kook a fait au moment du décès, de la mort de Théodore Herzl, qui a été commenté par Manitou dans le livre que j'ai amené ici, qui s'appelle Mispé de la Machiar, c'est-à-dire l'oraison funéraire du Messie. Je ne crois pas qu'il ait été traduit en français encore, donc sur cette question-là. Pour ce qui est de cet enseignement du Gaon de Vilna, je vous invite, j'ai donné un cours pendant toute une année dans le centre Midrashat Yehuda l'année dernière sur l'enseignement du Gaon de Vilna dans ce livre qui s'appelle le Kolator sur les deux Messies. Et donc, en quelques minutes, c'est impossible de tout résumer, mais si les gens sont intéressés à approfondir cette question, tous les cours sont sur YouTube dans le site de Midrashat Yehuda, donc du Centre Yair, donc vous pouvez retrouver tout cet enseignement sur une année. Et aussi, un scoop, c'est que le livre a été traduit en français, le Kolator, l'enseignement du Gaon de Vilna, et il doit sortir sous peu, ça fait déjà un an que je suis en train de le dire, mais si Dieu veut, donc vous pourrez avoir le support écrit du livre du Gaon de Vilna qui a parlé des deux messies, voilà. Ça, c'est l'introduction.
Quel en est le titre?
Kolator. C'est en hébreu Kolator. C'est la voix de la tourterelle, mais c'est une citation d'un verset de Shir HaShirim. Mais il vaut mieux, ça s'appellera Kolator. Dans les cours, vous pourrez le voir. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, vous pourrez aussi trouver, même sur support ordinateur, le texte en français du livre, puisqu'il est déjà traduit. Il reste juste à faire la table des matières, en gros. C'est tout ce qu'il reste à faire. Voilà. Donc, pour ce qui est des deux messies, je vais faire une petite, non pas correction, mais une petite mise à point par rapport à ce que tu as dit, qui est extrêmement importante. Tu en as parlé, mais il y a certains paradoxes dans l'enseignement de Manitou qui ont besoin d'être précisés. Dans l'histoire de la Bible, Yosef se trouve en Égypte, alors que Yehuda, c'est celui qui revient en Israël. Mais dans la cohérence de l'histoire, lorsque nous revenons en Israël, les deux messies participent au retour en Israël. C'est-à-dire que ce dont tu as parlé, c'est une dialectique entre le messie Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, qui serait celui de la diaspora, et Mashiach Ben Yehuda, ou Ben David, qui est celui qui s'occupe du retour des Juifs en Eretz Israël. Maintenant, dans tout ce que je vais expliquer maintenant, je vais parler d'une autre dialectique qui est celle du fait que les deux, et le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, tous les deux participent au retour en Eretz Israël. Les deux choses sont cohérentes dans la mesure où lorsque Yosef se trouve en exil, et c'est là que je vais expliquer la relation entre ces deux approches, et qu'on retrouvait aussi dans l'enseignement de Manitou justement, et j'ai pendant longtemps, je me suis posé la question comment arriver à faire la synthèse entre ces deux choses-là. Lorsqu'on est en exil, les deux identités existent. Et lorsqu'on est en Israël, les deux identités existent. Lorsqu'on est en exil, l'identité de Yosef, c'est celle qui se lie avec l'empire ou le royaume du temps, ou la civilisation du temps, pour la fertiliser. Et l'identité de Yehuda, de Mashiach ben Yehuda, qui est avec nous en exil, c'est l'identité, on pourrait dire, du juif du ghetto, c'est-à-dire du juif qui reste fidèle à sa tradition. L'un se trouve dans le palais du pharaon, ou bien du roi d'Espagne, ou bien à l'Élysée ou à la Maison Blanche, alors que l'autre se trouve dans les bate midrashot et les bate knessiot, c'est-à-dire dans les synagogues et dans les maisons d'études, à Francfort, à Vilna, ou bien à Meknès, c'est-à-dire qu'il se trouve là où les Juifs sont. Celui-là, c'est Mashiach ben Yehuda, ou l'essence de Yehuda, et celui-là, c'est l'essence de Yosef. Maintenant, quand on revient en Israël, ces deux identités reviennent en Israël, et de nouveau, comme aussi tu l'as cité, celle de Yosef s'occupe de la matérialité, puisqu'il a repris, on pourrait dire, cette vocation d'Ésaü qui est rentré à l'intérieur d'Israël, et celle de Yehuda s'occupe de la spiritualité. C'est ça qu'a enseigné le Rav Kook de manière claire lorsqu'il a parlé de Herzl, et c'est ça que donc Manitou nous expliquait, et dans ce livre et dans ses enseignements divers. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est beaucoup plus analyser ce qui se passe en Eretz Israël, c'est-à-dire de quelle manière ce processus de retour en Israël est indexé à ces deux identités messianiques, qui sont l'identité de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors, le premier point important, et c'est l'enseignement du Gaon de Vilna, qui nous dit que c'est que dans une Geoula, en son temps, c'est-à-dire la Geoula telle qu'on la vit aujourd'hui, il y a une chronologie des deux messies. C'est-à-dire que le premier Mashiach qui va fonctionner, on pourrait dire, pour faire le retour en Israël, ce qu'on appelle la Geoula, la rédemption, c'est le Mashiach ben Yosef. Et le Mashiach ben David, lui, il est entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas encore, et il apparaîtra en deuxième. Ce qu'on appelle en hébreu ou en araméen, Mashiach ben Yosef s'appelle aussi Mashiach de Atralta. Atralta, c'est le début. Du commencement. C'est en araméen, en hébreu on dit Atrala, comme on dit Kola Atralot Kachot, où les débuts sont difficiles. Atralta, avec le ta à la fin, c'est une formule araméenne, comme vous connaissez peut-être Atralta de Geoula, le début de la Geoula, de la rédemption. Et donc, lorsque les temps messianiques arrivent, il y a un ordre. Tout d'abord, le Mashiach ben Yosef est celui qui suscite le processus de Geoula. J'espère que j'ai pas besoin de traduire tous les mots, le mot Geoula, rédemption.
Certains le connaissent.
D'accord. Alors, Geoula, c'est la rédemption. Et maintenant que vous savez, alors je vais utiliser le mot Geoula. Comme ça, vous avez fait un petit cours d'Oulpan ce soir. Vous connaissez déjà un mot aussi, Mashiach ben Yosef, c'est Mashiach fils de Yosef, Mashiach ben David, c'est Mashiach fils de David. Mashiach que tout le monde sait, hein?
Oui.
Vous n'avez pas besoin de traduire, d'accord. Mais, d'accord. Vous savez ce que c'est Mashiach, ce que ça veut dire la traduction exacte?
Ouin,
voilà, c'est ça. Ouais. Comme en Belgique, il y a le roi beau d'Ouin, c'est-à-dire c'est le Mashiach de Belgique. Et donc, en Israël, c'est le Mashiach. Donc, le premier, celui qui s'occupe de ce qu'on appelle le début de la Geoula, c'est le Mashiach ben Yosef, et le suivant, c'est le Mashiach ben David. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le processus de Geoula est un processus qui correspond au processus du développement de l'être humain. Tout d'abord, il est plus matériel, matérialiste, pas dans le sens marxiste, mais l'enfant, eh bien, n'est inquiété que de son bien-être matériel, il veut manger, il veut dormir, etc. Il est pris en charge par ses parents, et c'est ce qu'on lui donne. Et puis, à un certain moment, on se rend compte qu'il faut construire le deuxième étage, qui est l'étage de, on pourrait dire, de spiritualité, d'intellect, de maturité, de moralité, etc. Et donc, au niveau du retour en Eretz Israël, on va retrouver la même chose. Tout d'abord, une messianité matérialiste, dans le sens le plus clair, c'est-à-dire, c'est pas par hasard que c'est ceux qui ont construit l'État, c'était Ben Gurion et des Mapainikim, c'est-à-dire des gens qui étaient des socialistes ou des communistes, parce que leur idéologie, c'était une idéologie matérialiste, marxistes souvent, maintenant il y en avait qui n'étaient pas marxistes, mais ils étaient, disons qu'en tout cas, on s'intéressait à construire la nation d'Israël en tant que nation matérielle, physique, réelle, une terre, un État, des structures d'État, une économie, une armée, tout ça, c'est ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire que c'est celui qui s'occupe de la matière. Dans le langage, dans l'enseignement de nos maîtres, c'est ce qu'on appelle Ani Verochem Al-Chamor, c'est-à-dire que ce Messie, il est pauvre dans le sens où il avance de manière naturelle, donc doucement, et Verochem Al-Chamor, il est sur un âne. Mais en fait, en hébreu, Chamor, c'est Chomer. Chomer, c'est la matière. C'est-à-dire qu'en fait, il avance sur la matière. Verochem Al-Chamor, c'est la matière qui est le support de son action. Voilà. Le deuxième stade de la Géoula, c'est-à-dire de la rédemption, est la venue... Excusez-moi, oui. Merci, comme ça je peux boire un petit peu.
Ma chère Ben Yosef, je voudrais que vous donniez une définition. Pourquoi vous avez décidé que Yosef
est une question précise.
Précisément uniquement en Égypte. Dans la Bible, on ne rappelle pas l'esprit sioniste de Yosef. Mm-hmm. En fait, c'est vrai que c'est un super génie en économie et c'était le fils de Rachel, mais j'ai encore reçu l'image de Yosef comme sioniste, comme penseur sur Israël.
Et bien entendu, j'espère qu'on aura aussi le temps pour des questions à la fin. D'accord, la question. C'est-à-dire que monsieur, en fait, si j'ai bien compris, s'identifier avec la description que Olivier a fait de Yosef, qui est celui qui est en Égypte, c'est-à-dire c'est le juif d'exil, et a une difficulté à accepter ce chidouche, c'est-à-dire cette nouveauté du Gaon de Vilna, qui vient d'ailleurs qui vient d'avant, aussi du Harizal, le Rav Yosef Rav Yitzhak Luria, et ensuite du Rav Kook et ensuite de Manitou, qui nous explique qu'en fait Yosef c'est un sioniste. Oui, tout d'abord, le Gaon de Vilna nous disait avant le sionisme de Herzl, il nous faisait remarquer que Yosef en Gematria, c'est la même Gematria que Tzion, que Sion. C'est-à-dire que dans son identité, et d'ailleurs le Midrash Tanhuma le confirme, que Yosef, ce qui est arrivé à Yosef, est arrivé à Tzion, et ce qui est arrivé à Tzion, à Sion, est arrivé à Yosef. Maintenant, pour vous répondre en un mot, Yoshua bin Nun, qui a conquis le pays, descend de Yosef, c'est Ephraïm, c'est lui qui va conquérir le pays. Il y a d'autres réponses, la réponse est beaucoup plus vaste. Mais première chose, deuxièmement, Olivier aussi l'a rappelé, c'est que l'État juif, tel qu'on l'a connu au début du premier temple, c'est un état où il y a les 10 tribus qui sont du côté de Joseph et les 2 tribus qui sont du côté de Yehuda. Où fait Dechinumecha Yehuda ve Israël, et tu dois libérer, comme tu as dit, Juda et Israël. C'est-à-dire que cette idée que chacun a quelque chose à réaliser, c'est quelque chose qui est absolument évident. Et ce qui est très beau, c'est que cette identité de Yosef, ce qu'il a réussi à faire en Égypte, il va réussir à le faire beaucoup mieux alors qu'il va faire ce travail non pas avec un pharaon, mais avec un roi de Malchut Beth David, de la royauté de David, donc du côté de Yehuda. Voilà. Je continue donc le développement, mais je vous remercie de la question parce qu'en effet, elle était importante. Voilà. Maintenant, donc, on sait, selon cet enseignement-là, qu'à un moment, alors, va apparaître le Mashiach Ben David. La question, et un deuxième point qui est important, et Olivier en a parlé énormément, c'est que il y a deux dialectiques possibles. C'est-à-dire la première, c'est tout d'abord Mashiach ben Yosef. Quand Mashiach ben Yosef aura fini de faire ce qu'il a à faire, comme on dit en hébreu, akushi aset shelo akushi yachol alechet, c'est-à-dire que si le nègre a fait ce qu'il a fait, alors le nègre va pouvoir partir, et à ce moment-là, il sera remplacé par la personnalité spirituelle de Ben David qui va le remplacer. Alors, Olivier l'a très bien dit, c'est que cette conception ressemble à la conception chrétienne. C'est-à-dire que c'est ou toi ou moi. On revient à la dialectique de Caïn et de Havel, de Esav et de Yaakov, c'est ou toi ou moi. Et si c'est moi, alors si je, alors je te tue, parce que tu n'as pas la place pour vivre avec moi. Donc c'est en fin de compte toute cette équation impossible de l'histoire de la relation entre la chrétienté et la judaïté ou le judaïsme, que c'était toujours l'un ou l'autre. Or, notre combat essentiel, je dirais, dans cet enseignement, c'est de transmettre cet enseignement du Gaon de Vilna, de Herzl, qu'il a crié aussi fort qu'il pouvait, ainsi que de Manitou, et on continue à le faire avec l'aide de Dieu, c'est que c'est pas ou l'un ou l'autre, mais le but est l'un avec l'autre. Ce qu'on appelle le Yichud Tren Meshichin, c'est-à-dire l'unification des deux messies. Et toute la difficulté, c'est pas seulement que l'un apparaisse et que l'autre apparaisse, mais de réussir le projet de l'unification et non pas de la contradiction entre les deux messies. Comme l'a dit Olivier, cette mission d'unification a échoué à l'époque du premier temple et depuis, on n'a jamais essayé de le réaliser de nouveau. C'est-à-dire, depuis le schisme à l'époque du roi Salomon jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu retour des 10 tribus, il n'y a pas eu retour de cette identité double, même pas à l'époque du deuxième temple véritablement. Et notre projet aujourd'hui en État d'Israël, c'est de réussir ce projet qui est en fin de compte à l'échelle universelle. Parce que si on réussit, alors les goïms sont capables aussi d'apprendre de nous ce qu'ils attendent depuis 4000 ans, c'est-à-dire la réussite d'un projet, d'une société, d'une humanité reliée avec Akadosh Baruch Hu. Et cette réussite, c'est ce qu'on appelle le Yichud, l'unité entre les deux messies. Quand, pour ceux qui ont l'habitude, avant les mitzvot, de faire une mitzvah, c'est surtout chez Sfaradim et les Chassidim, de dire le Shem Yichud, Kutcha Berichu Shrinte, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est au nom de l'unité entre Akadosh Baruch Hu et Sashrina. Le Gaon de Vilna nous explique qu'en fait on prie pour l'unification aussi de ces deux messies à un certain niveau. Donc vous voyez que chaque fois qu'on fait quelque chose, le peuple juif, on s'occupe de l'unification de ces deux valeurs qui sont ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David. Donc en fait, je résume tout cela. Au niveau chronologique, tout d'abord à Paris, ma chère Ben Yosef, je parle maintenant du retour à Sion, ce qu'on appelle le sionisme historique. À un moment va apparaître le Machir Ben David, et quand va apparaître le Machir Ben David, on aura un troisième projet qui est celui de la réussite d'intégrer David sans, pour cela, annuler Yosef. Vous comprenez? C'est-à-dire ne pas dire, puisque David est apparu, alors Yosef, tu pars à la retraite. Donc on aura quelque chose de nouveau. Comment faire la synthèse entre ces deux choses? Maintenant, si vous m'avez bien suivi, normalement il y aurait quelqu'un qui devrait poser une question. Alors d'accord. Le Mashiach ben Yosef, son identification, je l'ai identifié, Herzl, David ben Gurion, la construction de l'État d'Israël, et pour Manitou, la date fatidique, c'est la date de 1948. Tachar, d'ailleurs on a toutes sortes d'enseignements, entre autres un enseignement très célèbre du Gaon de Vilna dans ce livre et dans son commentaire sur une des parties du Zohar Kadosh, dans lequel il a donné la clé de savoir que 1948 était le moment où vraiment le Mashiach ben Yosef et a commencé son travail, véritablement. Donc, à partir de ce moment-là, on a une date, on a un phénomène, le phénomène sioniste est un phénomène de la reconstruction, de la restitution de la Géoula, donc de la restauration de cette identité hébraïque du côté matériel. Maintenant, grande question, point d'interrogation, quand est-ce que le Mashiach ben David va arriver? Chaque fois que j'ai des élèves qui viennent de France, à qui j'enseigne ici en Israël, dans différentes structures, des jeunes, ils me parlent toute la journée du Mashiach ben David, le Mashiach va venir, le Mashiach, we want Mashiach now, oui, on veut le Messie maintenant, etc. Donc, mais quand ils parlent que du Mashiach ben David, c'est-à-dire vos rabbanim en France, quand ils vous parlent du Mashiach, 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 oi, 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 ils vous parlent toujours du Mashiach ben David. Il n'y a jamais de Mashiach ben Yosef, parce que s'ils avaient compris ça, ça fait longtemps qu'ils auraient fait faire la Aliyah à leur communauté et qu'ils seraient revenus avec pour participer au processus de Mashiach ben David. Maintenant, quand est-ce que ce Mashiach va venir? Est-ce qu'il est venu? Alors, il y en a qui disent mais non, et il y en a qui disent mais si. Alors nous, on va dire que, quoi? Mais si, voilà, c'est ça exactement. Alors donc, il faudrait interroger Manitou, puisque ce soir on parle de Manitou, il faudrait lui demander. Alors j'ai trouvé, comme je vois que vous n'êtes pas tellement hébraïsant, j'ai amené un texte de ce livre, page 103, je l'ai photocopié à la fin du cours. Pour ceux qui veulent, vous pouvez le prendre. Ceux qui comprennent l'hébreu, vous le prenez, vous l'étudiez. Ceux qui ne comprennent pas, vous vous en servirez comme amulette chez vous à la maison pour savoir que ce qu'a dit Manitou. Donc Manitou, ce qu'il nous a dit dans ce texte, page 103 de ce livre, dans son commentaire sur le texte de Rav Kook, sur Herzl, il nous a dit comme ça, et c'est l'étude essentielle qu'on va faire dans le temps qui me reste ou que j'ai ce soir. C'est un scoop de ce soir, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'il a dit que depuis 1967, on est passé de Mashiach ben Yosef au début de Mashiach ben David. C'est-à-dire que 1948, Mashiach ben Yosef, 1967, passage au début du processus de Mashiach ben David. Voilà. Ça, c'est l'enseignement de base. Alors, d'où est-ce qu'il le savait, Manitou? Est-ce qu'il a reçu ça par prophétie? Ou bien, est-ce qu'il a aussi, ça provient d'une analyse ou d'un enseignement de ses maîtres? Alors, il s'est expliqué, et c'est cette explication qui est marquée dans cet enseignement que je vais vous livrer ce soir. Ce qu'il dit, il dit comme ça. Il dit qu'en 1948, on a reçu la terre des Anglais, British, n'achon. Et les Anglais, c'est des descendants d'Ésaü, c'est-à-dire c'est ceux qui proviennent de la souche, la chrétienté, le monde occidental, et en 1948, on les a eus. Donc, puisqu'on a réussi à les vider de Palestine. Voilà. Donc, on a reçu la terre des Anglais. Parce qu'on a reçu la terre des Anglais, notre confrontation avec cette conquête était par rapport au monde occidental, on va l'appeler de nouveau le monde d'Ésaü, le monde de l'Occident. Je pense que cette corrélation vous est connue. C'est-à-dire chrétienté, monde occidental, non, pas encore. Alors maintenant, voilà, vous le connaissez. C'est-à-dire que le monde de l'Orient, quand je parle de l'Orient, c'était le monde d'Ishmaël ou le monde arabe, ça correspond justement à la descendance physique ou spirituelle de Ishmaël. Olivier nous en a parlé de ces identités Ishmael en face d'Yitzhak, alors que Ésaü, c'est celui qui est en face de Yaakov, et de ce point de vue-là, c'est le monde occidental qui a pris comme religion la chrétienté et qui est en face de nous de ce point de vue-là. Maintenant, est-ce que Ésaü a une part sur la terre d'Israël? Il n'a absolument aucune part sur la terre d'Israël. Il n'y a aucune promesse. Et notre conflit avec Ésaü, c'est un conflit au niveau spirituel, au niveau de savoir qui est-ce qu'est Vérus Israël. D'accord. Alors, nous, on est Vérus, et eux, c'est une verrue. Voilà, Vérus Israël. Donc, c'est, en tout cas, c'est la question, c'est au niveau, vous avez reçu cet enseignement, au niveau de savoir qui est-ce qui détient cette relation privilégiée d'être le fils aîné de Hakadosh Baruch Hu, de Dieu béni Bechori, mon fils aîné. Voilà. Par contre, quelle est notre relation, c'est-à-dire notre on pourrait dire notre conflit avec Ishmael, avec donc le monde musulman ou le monde d'Ishmael. Alors cela nous dit Manitou, il est au niveau de l'héritage de la terre d'Eretz Israël. Et comme en 1968, comme en 1967, on a conquis la terre de la main des musulmans et des arabes de Ishmaël, donc la question qui se pose est une nouvelle question. Tant que le problème c'était par rapport à Ésaü, puisqu'ils n'ont pas le droit sur cette terre, on n'avait pas besoin d'une justification par rapport à la Torah de cette conquête. On récupérait, on pouvait dire, une terre de manière politique, c'est-à-dire un refuge qui nous revenait, puisqu'on est, en fin de compte, les propriétaires de cette terre, et toute l'équation, pourquoi est-ce qu'on est ici, c'est une équation politique. On revient chez nous, il y a eu la Shoah, on est les descendants des Hébreux du premier temple et du deuxième temple, donc, qui suis-je, d'où viens-je, je suis qui je suis, je viens de chez moi et je rentre chez moi. Voilà, c'est comme l'a dit Coluche, il était très sioniste, il nous a expliqué qu'en 1948, on est rentré chez nous à la maison parce que c'était chez nous. Il n'y avait pas d'éléments religieux ou de relation à la Torah dans cette explication. Vous relirez vos textes de ceux qui sont revenus en Israël, des textes des gens sionistes qui ont fait cet état. C'est comme ça qu'ils parlaient, parce qu'ils avaient en face de eux des Britanniques, c'est-à-dire des Anglais, une civilisation d'Ésaü. En 1967, on a conquis la terre des mains des Arabes, et donc la question qui se pose, qui est le propriétaire de cette terre, et parce que la Torah a dit que la discussion entre nous et entre Ishmael est sur cette terre. D'où est-ce qu'on le sait? C'est la parashat Hashavua, c'est-à-dire la parashat de cette semaine, parashat Vayera. Entre parenthèses, c'est assez extraordinaire que cet enseignement, qui est un enseignement essentiel de Manitou, se trouve la semaine de Sahaskara. Voilà, exactement. Alors, comment est-ce que les choses, tout d'abord, s'expliquent? Je vais tout de suite l'expliquer. Mais ce que Manitou a dit dans ce texte, c'est que puisque notre question, qui est la question de la propriété sur cette terre, elle est en face des Ishmaélim, des Ismaélites. À ce moment-là, notre discussion sur la propriété de la terre est une discussion au niveau de la Torah. Ça devient une question de propriété de la terre théologique. On n'est plus dans le politique, on est dans le théologique, on est dans le religieux. Et la question de nous vis-à-vis d'eux est une question de Torah. À partir du moment où c'est une question de Torah, c'est très simple. Celui qui parle un langage sans Torah ne sait pas expliquer pourquoi. Est-ce que Shrem nous appartient, Sichem, Naplouse pour les Néapolis, en français. Pourquoi est-ce que la vieille ville de Jérusalem, le Kotel ou le monde du temple nous appartient? Pourquoi Hébron ou Bethléchem nous appartient à partir du moment où, dans un langage politique européen, on pourrait dire, on perd son langage, c'est-à-dire on n'a plus de manière de l'expliquer. Ce qui explique pourquoi le sionisme classique de 1948 depuis 1967 ne fait qu'une seule chose au niveau politique, essayer de se débarrasser de ce qu'on a conquis en 1967. C'est-à-dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour dire reprenez-le, ça ne nous appartient pas. Et explication de Manitou, les clichés ou bien les critères de pensée de ceux qui ont fait le sionisme en 1948 sont incapables d'intégrer, de digérer cette conquête et cette possession de ce qu'on appelle Jérusalem et Yehuda Veshomron, c'est-à-dire la Judée-Samarie. Voilà, ça c'est le point de base de l'enseignement de Manitou. Si vous n'avez pas de questions dessus, je vais expliquer pourquoi. Si la question c'est pourquoi, alors je vais expliquer pourquoi. Alors je reviens à la parashat HaShavua, donc au texte de Vayera. Il y a marqué que lorsque Isaac est né, à ce moment-là, Ishmael a commencé à ricaner. Ishmael Metzachek était en train de ricaner, et nous disent nos sages que le rire d'Ishmael, c'était en fin de compte trois choses. C'est le shirudamim, c'est-à-dire le meurtre, l'inceste, Giloy Arayot, va Avodazara et l'idolâtrie. C'est-à-dire que Ishmael était, en fin de compte, était en train de dérailler, de sortir de la tradition d'Avraham et de commencer à faire les pires des fautes. Comme vous savez, c'est les trois fautes les plus graves, Giloy Arayot, shirudamim, va Avodazara, l'idolâtrie, le meurtre et la débauche, l'inceste. Et à ce moment-là, ensuite, donc, Sarah dit à Avraham, Garesh et Bena Amazot, renvoie le fils de cette servante. Avraham Avinu ne veut pas, il refuse, il dit non, c'est mon fils. Et à ce moment-là, intervient Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même en personne, et il dit, Kol Asher Tomar Lecha Sarah, Shma Bekola, tout ce que te dira Sarah, tu dois l'écouter. Moi, ça me pose un problème parce que ma femme qui est ici dans la salle, elle s'appelle Sarah, donc depuis que je suis marié, alors chaque fois, je me dis que je suis obligé d'écouter ce que dit Akadosh Baruch Hu, Kol Asher Tomar Lecha Sarah, Shma Bekola. Donc tu dois écouter la voix de ta femme et Sarah. Et il lui dit ça à propos de cela. Si elle dit qu'il faut renvoyer Ishmael, alors il faut le renvoyer. Kilo irachra, lui dit Sarah, parce que mon fils ne va pas hériter avec Ishmael, le fils de Hagar, et donc de Avraham et de Hagar. Et nos sages nous disent que ce qu'a dit Sarah, lo irachra, ne pas hériter, c'est pas un problème d'héritage, de savoir qu'est-ce qu'il va recevoir les bijoux, mais c'est l'héritage de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que toute la discussion qui est marquée, et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans un enseignement célèbre qu'a expliqué Manitou, dans un de ses cours, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, celui qui écrit le Zohar, nous dit, sachez que quand on va revenir en Israël, le problème du conflit avec Ishmael ne sera pas la première option, le fait qu'il riait et qu'il a des problèmes de moralité, qu'il y a des chaïds qui sont prêts à tuer et à mourir en même temps, qu'ils ont des problèmes aussi de éventuellement d'idolâtrie ou des problèmes de débauche. La vérité, c'est qu'ils ont fait tshuva sur l'idolâtrie et ils ont fait en grande partie aussi tshuva sur les problèmes de Arayot, puisque la religion de Ishmael, c'est une religion qui est très stricte au niveau de tout ce qui est tzniut, aussi au niveau de la valeur de la pudeur. Mais sachez que quand on vient en Israël, la question est de savoir où est le conflit avec eux, et si on sait où est le conflit, alors on peut résoudre le conflit. Or, nous dit la Torah, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, que le point de conflit avec Ishmael, c'est les frontières de la terre d'Israël. C'est-à-dire que si l'on dit, il y a ici la place pour deux états, un état arabe et un état juif, tant qu'on dira ça, alors les Ishmaélim comprendront qu'on renonce à notre propriété ou aux frontières de l'État, et ils continueront à se battre avec nous. Alors que le jour où on comprendra que le point de conflit à ce niveau, c'est-à-dire savoir qui est le propriétaire et qu'on en dira gentiment, c'est à nous et c'est pas à vous, à ce moment-là, sans doute que le conflit sera terminé. En tout cas, c'est ça qui est marqué dans cet enseignement de la Torah. Vous savez très bien que si on peut mettre le point sur le point du conflit, on peut le résoudre. Tant qu'on est en porte-à-faux, ou on explique les autres autrement, alors c'est autrement. Voilà, ça c'est l'enseignement de Manitou. Il nous a aussi dit, au nom du Zohar HaKadosh, qui dit que cette propriété, puisque le conflit est au niveau de la propriété, cette propriété, Ishmael a un droit de propriété. parce qu'il fait aussi la Brit Mila. Il a la Mila, donc il a un droit de propriété, mais ce droit de propriété, c'est que tant que, puisqu'il a une Mila qui est différente de la nôtre, et elle est, c'est une Mila qui est moins cachère que celle que font les Juifs, donc... Ah, Mila, pardon, oui, la circoncision. Non, je ne me souvenais pas où, qu'il fallait traduire. Donc, la circoncision des Arabes, elle est différente de la circoncision que font les Juifs. Et à cause de ça, nous dit le Zohar, il a un droit sur Israël tant que la terre est vide. Lorsque la terre est vide de ses habitants, alors l'Ishmaélite y habite. Et comme vous avez remarqué, ils ont tout fait pour qu'elle reste vide. C'est-à-dire qu'ils étaient ici, mais ils l'ont laissée aussi désolée. D'accord ? Maintenant que nous sommes désolés, la terre n'est plus désolée. Désolé, Hadash. Hein. Et donc, pour traduire, hein, on est à un olé. Donc, en fait, plus on revient en Israël, plus on s'installe sur la terre, moins il y a de terre désolée, donc vide, moins il y a de droit de Ishmael sur la terre, donc plus le conflit se résout de facto de lui-même. C'est ça l'enseignement que nous a donné Manitou à propos de cela. Je vous fais une remarque, entre parenthèses, extrêmement importante, c'est que vous remarquez que c'est vrai que, j'imagine qu'il y a une grande partie de Sfaradim ici dans la salle, c'est vrai que la vie dans les pays arabes, dans les pays orientaux, c'était pas une vie de tout repos. C'est-à-dire que pour les Juifs, c'était pas tous les jours sympathique. Mais par rapport à ce que nous, les Ashkenazim, on a vécu, c'était beaucoup mieux. C'est-à-dire que, de manière générale, dans le monde occidental, sauf à des périodes spéciales, on pouvait vivre en tant que Juif. On vivait pas bien, mais en tout cas, on avait un statut spécial. Mais en tout cas, les Arabes nous ont supportés, alors que les chrétiens, de manière générale, ne nous ont jamais supportés. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que le moment où les Arabes ont commencé à voir rouge et à ne pas supporter, c'est le jour où on prend possession de la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'au niveau théologique, c'est ça qui est insupportable pour un musulman, c'est la possession par les Juifs, le retour sur la terre d'Israël. Alors que pour un chrétien, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est le problème de justement, comme on l'a dit auparavant. Alors, maintenant, le point essentiel qu'on va voir maintenant dans le temps qui nous reste, en principe, on a jusqu'à 9h30, mais je vais laisser un temps pour les questions, parce que je pense que c'est pas tout de suite, mais si vous me permettez, je vais essayer de terminer un peu plus vite que cela, l'analyse. Au niveau de l'analyse, ce qui est très important, c'est de comprendre que cette idée que nous a dit Manitou, que depuis la guerre des six jours, que depuis 1967, cette relation entre la conquête de la Judée-Samarie et cette guerre des six jours fait qu'en fin de compte, le peuple juif en Israël doit se rejudaïser pour pouvoir comprendre pourquoi il est ici depuis la guerre de 67. Traduction, il est en train de retrouver l'identité, ma chère Ben David, puisqu'on a dit que c'était l'identité spirituelle. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'est rejudaïsé que, du coup, on a comment ? Apparemment, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le bon Dieu, comme on dit, qui nous oblige, même souvent à contre-gré, à réintégrer notre identité pour pouvoir être capable de faire les choses. Au niveau très, très, très terre-à-terre, on pourrait dire que depuis 1976, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les sionistes qui sont sionistes, c'est quoi être sioniste ? C'est construire des maisons, construire des yishuvim, des nouvelles installations, c'est-à-dire des nouveaux villages, des nouvelles villes, etc., aller s'installer dans le Negev, dans le Galil, et surtout en Judée-Samarie et dans le Golan. De manière générale, les sionistes sont des gens... Ces sionistes-là, ou bien ceux qui sont les premiers au combat, etc., c'est ce qu'on appelle le sionisme religieux, ou bien au niveau, en tant que mouvement politique, ce qu'on appelait le Gush Emunim, et qui ont été dirigés, comme par hasard, par le fils de Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk, qui s'appelait le Rav Tzihuda HaKohen Kouk, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, c'est-à-dire notre maître, qui était celui qui a inventé, qui a promu ce mouvement, qui s'appelle Gush Emunim, qui est celui qui a pris la relève, en fin de compte, du sionisme classique. Or, il s'avère que de manière extrêmement intéressante, c'est pas que on ne renie absolument pas, on peut dire, aux sionistes d'origine leurs valeurs et aussi le fait qu'encore aujourd'hui, dans le monde non religieux en Israël, bien entendu, il y a encore des gens qui s'occupent d'installations, de construire des nouvelles choses. Mais de manière générale, on voit quand même une certaine opposition et le fer de lance et de l'Aïtiachoud, ce qu'on appelle l'installation en Israël, et au niveau de l'armée, etc., c'est un fer de lance qui a une qui passe sur la tête, comme par hasard, et c'est quelque chose qui il faut se demander pourquoi. Donc la réponse de Manitou, elle est là. C'est-à-dire il faut être capable d'avoir un langage de Torah pour pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui on est en Eretz Israël. D'une autre manière, le défi qui est depuis 1967, c'est le défi de la capacité de lier ensemble l'idée spirituelle et l'idée matérielle, comme l'a expliqué Olivier, l'idée de Kol Kol Yaakov Adam et Desav, c'est-à-dire les mains et la voix, et c'est le Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Donc vous voyez que les enjeux qui ont l'air d'être des histoires des territoires occupés ou des territoires libérés, et de 15 maisons, je ne sais pas combien il y en a à Amona, comme vous lisez dans les nouvelles, on croit que c'est 15 maisons à Amona, mais en fin de compte c'est un combat, on pourrait dire, au niveau du monde entier, en tout cas au niveau d'Israël, et parce que l'enjeu du combat, c'est est-ce qu'on va réussir à faire l'intégration de cette valeur de spiritualité et sa valeur de matérialité dans le retour à Sion, dans la restitution et la reconstruction du pays d'Israël. Voilà, en gros, de ce point de vue-là, j'ai expliqué l'idée de Manitou. Voilà, maintenant, donc comme vous l'avez compris, l'idée essentielle, c'est la réunification des deux. Je voudrais maintenant donner en vitesse ce qui s'est passé depuis 1967 comme les vagues successives ou différentes vagues de ce phénomène. C'est-à-dire, 1967, la guerre des six jours, c'est un séisme au niveau du peuple juif et au niveau du monde entier, puisqu'on est passé dans la nouvelle phase qui est celle de Mashiach Ben David et l'union des deux messies. Donc c'est quelque chose d'absolument, si on prend toute l'histoire depuis le début et si on relit tout ce que Olivier nous a expliqué, on voit qu'il y a une révolution véritable dans l'histoire universelle et dans l'histoire du peuple juif depuis ce moment-là. Alors je vais vous donner quelques lignes de pensée qui sont les conséquences de cela. La première, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Hazara Bitshuva, c'est-à-dire la Tshuva, le retour, comment on pourrait dire, le retour à la religion. Voilà, on va parler en français, les gens qui font le retour à la religion. Alors, vous comprenez pourquoi ces choses sont reliées. Tout d'abord, je vois que la plupart des gens dans la salle ont plus ou moins mon âge, mais un petit peu moins. Et donc, vous savez que le phénomène qu'on appelle la Teshuva, c'est-à-dire le retour à la religion, le retour à Dieu, c'est un phénomène nouveau qui a commencé à partir de 1967. Les sociologues du peuple juif témoignent que, je vais donner le retour à l'identité juive et le retour, ce qu'on appelle la teshuva. De toute façon, tout ça, ça fait partie de la teshuva. C'est-à-dire le retour à l'identité ou le retour à la religion, c'est la même chose. Mais il y a des masses entières. Je parlerai par exemple des masses américaines qui, dans le processus, disons, de réforme, ont retrouvé une identité sioniste, etc. Des masses de juifs en Amérique du Sud, ou bien le phénomène en France qu'on connaît, de retour à l'identité juive et de retour à la religion, c'est des phénomènes qui n'existaient pas en tant que phénomène avant 1967. Si on demandait quel est le point de rupture, ou plutôt le point de départ de ce phénomène de teshuva, qui est très large, cette notion de teshuva, eh bien c'est la guerre des six jours et c'est le moment de 1967. Et vous souvenez de nos manifestations à Paris en disant que nous sommes tous, etc. Et de l'émotion quand on a entendu que le mur de l'élémentation et que la montagne du Temple était conquise, qui a éveillé le cœur et la conscience de tous les Juifs du monde, quelque chose qui était absolument inexplicable. Et ce phénomène ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de petit à petit de teshuva et de retour de manière générale. Or, pourquoi cela? Parce que Mashiach Ben David a commencé à arriver et nous a reliés avec cette notion que si tu reviens en Israël, tu vas revenir aussi à la Torah. Je voudrais faire une remarque extrêmement importante, puisque je connais aussi ce phénomène au niveau du judaïsme qui a fait tchouva en Israël et en France, c'est que, en fin de compte, je dirais que cette réussite que vous connaissez tous dans l'enseignement juif, qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit Chabad, ou que ce soit le Rav Yosef Sitruk, ou que ce soit en Israël le mouvement de chasse, ou tout ce que vous voulez, ou bien aussi la tchouva dans le mouvement de Rav Kook, etc. Tout ce phénomène de tchouva absolument incroyable et extrêmement large, eux-mêmes, les gens qui le vivent ou les gens qui l'enseignent, si vous leur demandez quelle est la cause qui fait cela, ils sont en général incapables de vous dire. Ils vous diront tout simplement, en général, surtout quand ça vient dans une analyse historique, qu'après la crise de la Shoah et aussi du déplacement des communautés juives d'Afrique du Nord ou du monde arabe vers le monde occidental a créé une cassure. La Shoah a créé une cassure dans le monde ashkenaz et au bout de 30-40 ans, alors on s'est remis sur pied, économiquement parlant, religieusement, on a appris à parler un langage qui correspondait au monde occidental, et c'est grâce à ça qu'on a des Manitou, des rabbins Sitruk, etc., ou le rabbi Trabad, qui font, ou d'autres encore, je suis pas exclusif de qui que ce soit, qui font qu'il y a un retour d'identité en Israël. C'est une explication sociologique. Mais selon l'analyse que je suis en train de vous dire, cette explication n'a aucun sens, et je vais vous dire pourquoi elle n'a aucun sens. Parce que les phénomènes d'assimilation, de désidentification, vous savez qu'elle a commencé déjà en Afrique du Nord, en Algérie de manière très forte, au Maroc beaucoup moins, en Tunisie aussi, mais même au Maroc, en fin de compte, les masses étaient déjà désidentifiées, on était dans le ghetto, donc ont continué. Mais ce phénomène existait déjà, et dans le monde ashkenaz, l'hémorragie au niveau identitaire était extrêmement forte avant la Shoah. Et si, et donc ce n'est pas, c'est pas du tout explicable, c'est pas du tout comme ça qu'on peut expliquer ce phénomène. Donc, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est que ça se passe tout à fait différemment. C'est l'équation de savoir pourquoi on est en Eretz Israël depuis 1967 qui nous oblige à donner une réponse qui est reliée avec la Torah, qui fait que, au niveau universel, le peuple juif est en train de retrouver son identité de Torah. Vous comprenez ? Avant 1967, on n'avait pas besoin de Torah pour comprendre pourquoi on était en Israël. On habitait à Tel Aviv, on était très bien, on mangeait pas kasher, on faisait pas Shabbat, mais on savait pourquoi on était sioniste. Vous le savez très bien. Mais depuis 1967, ça ne marche plus si on n'a pas les bases de la Torah, donc il faut que le peuple juif apprenne la Torah. Et le peuple juif, rue Pavé, par exemple, à Paris, est en train d'apprendre une Torah non sioniste, mais en fin de compte, il ne sait pas qu'il est en train de l'apprendre parce qu'il est obligé de comprendre pourquoi on est en Israël. Vous comprenez ? C'est quelque chose d'assez paradoxal. Eux ne sont pas prêts à le reconnaître parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe en fin de compte. Mais en fin de compte, fondamentalement, c'est ça qui se passe. Donc, ce que je viens d'expliquer maintenant, c'est la correspondance entre cette conquête de 1967 et ce phénomène de teshuva, de retour en Eretz Israël, qui sont concomitants, qui viennent ensemble et qui, en fin de compte, arrivent en tant que phénomène que les gens qui le vivent ne sont pas capables de s'expliquer eux-mêmes, et il faut qu'on leur explique cette chose-là. Maintenant, pour prendre un deuxième point intéressant, c'est que, et au niveau sociologique en Israël et en France, c'est extrêmement frappant, c'est qu'il y a une plus grande vivacité de la tshuva dans le monde séfarad que dans le monde ashkenaz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore en Israël, les plus anti sont toujours ashkenaz, alors qu'au contraire, dans le monde séfarad, vous le savez, il y a une sympathie et un retour vers l'identité juive et religieuse qui est extrêmement forte. À la limite, vous savez très bien qu'à Paris ou en Israël, un Lubavitch ou bien un Breslav, si tu lui demandes d'où tu viens de quel coin en Russie, te dira, mais moi je viens de Tlemcen ou je viens de Oran, d'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, même les identités religieuses ashkenazes, ceux qui accrochent, c'est aussi des juifs de Sfaradim. Pourquoi cela? Alors je vais vous expliquer de la même manière. Tant que notre relation d'identité par rapport à notre sionisme aussi, c'était par rapport à Esaü, les British, à ce moment-là, on était en fait, c'était le monde ashkenaz qui avait ses réponses. À partir du moment où notre conquête, c'était par rapport à Ishmael, et que notre retour d'identité est en équation de base, un conflit entre l'identité musulmane et l'identité hébraïque, c'est-à-dire au niveau de la relation par rapport à Israël, au niveau de Torah, ceux qui sont le plus naturellement porté à savoir quel est le langage qu'il faut donner, c'est plus le monde séfarade que le monde ashkenaz. Je vous donne une deuxième relation par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement fort en Israël, c'est qu'en fin de compte, on est beaucoup plus dans une recherche spirituelle qu'une recherche intellectuelle. Si, à l'époque d'Orsay, etc., pour pouvoir faire tshuva à quelqu'un, il fallait tenir un langage cartésien, un langage philosophique, un langage rationnel, aujourd'hui, il suffit d'avoir une kippa blanche avec un pompon et de danser des transes sur la musique de Breslav pour pouvoir, en fin de compte, sentir qu'on est relié. Là, j'ai un petit peu exagéré, mais la recherche, j'ai un petit peu beaucoup, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la recherche, elle est valable, on le sait, même au niveau des gens les plus chilonim, ce qu'on appelle les moins religieux en Israël, ils se sentent très, pratiquement tout le temps liés avec une relation avec le judaïsme, avec Dieu, quand on leur parle un langage qui est vraiment de ruchaniyut, de spiritualité. C'est pas un langage rationnel, quelque chose comme la chassidut. C'est quelque chose qui est beaucoup plus lié avec la ferveur, avec la spiritualité. Et on sait très bien que ce langage, il est beaucoup plus le langage de l'Orient que le langage de l'Occident, que ce soit au niveau des musulmans, de Ishmael, celui qui entend la voix de Dieu. Alors que Esav, c'est celui qui fait. La hassot, c'est faire. Alors que Ishmael, c'est celui qui écoute. Vous vous souvenez que quand on a reçu la Torah, on a dit deux choses. Naase, venishma. Naase, c'est Esav, si on va faire, si on est le monde de l'action. Nishma, on va entendre. C'est Ishmael, celui qui entend Dieu. C'est celui qui est dans le monde de la relation vis-à-vis de Dieu. Donc, de ce point de vue-là, le langage de Torah aujourd'hui, c'est un langage d'une Torah qui est plus ou chassid ou plus séfarade. C'est quelque chose qui est intéressant. Et là-dessus, j'ai entendu d'un élève de Manitou qui nous a dit, sache que le Mashiach ben Yosef, il est ashkenaz, et le Mashiach ben David, il sera sfarad. Comme ça, tout le monde est content, il y a deux grands rabbins, il y aura deux messies, un ashkenaz et un sfarad. Alors, je vais vous livrer le secret, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est marqué dans la Torah, parce que lorsque Yosef est né, or Yosef, c'est celui, à part son identité, c'est celui du rassemblement de tout le monde. C'est celui qui s'occupe de tout le monde, c'est celui qui s'inquiète que tout le monde soit là, plus que plus que Yehuda, puisqu'il est le national. Donc il est celui qui s'inquiète que tout le monde soit là. Et c'est là que le sionisme, vous savez, c'est le sionisme, c'est l'idée que tous les juifs sont là. La loi du retour, on accepte même ceux qui ne devraient pas revenir, mais parce que il vaut mieux ramener ceux qui ne devraient pas que risquer de ne pas ramener ceux qui devraient revenir. Donc, cette identité. Mais Yosef, il avait deux noms. Celui qui lui a donné son père et celui qui lui a donné sa mère. Or, sa mère, Rachel, ne l'a pas appelé Yosef, mais Asaph. C'est aussi un nom hébraïque, Asaph, Aleph, Samerpe. Nous disait Manitou, c'est pas compliqué. Asaph, c'est les initiales. Ashkenazi, Sephardi. Aleph de Ashkenaz, Samer Pei, ça fait Sephardi. Donc en fin de compte, Yosef, de ce point de vue-là, c'est le rassemblement, mais de deux identités, de deux messies, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui sont les deux ensemble. Vous avez compris. Maintenant, je passe à l'idée suivante, et qui est aussi intéressant. Je vais passer en vitesse sur un point que vous connaissez beaucoup plus. C'est en fin de compte les réactions qu'a suscité ce phénomène en Israël depuis 1967. Or, elle a suscité deux réactions opposées, mais qui, en fin de compte, comme on dit, les extrêmes se rencontrent. La première, c'est la réaction des sionistes de 1948. Qu'est-ce qu'ils ont comme sentiment? C'est qu'en fin de compte, on est en train de leur voler leur bébé. On est en train de leur voler leur sionisme. Vous nous avez pris. C'est nous qui avons construit Dgania, c'est nous qui avons asséché les marais, et on ne s'est pas tellement marré à cette époque-là, etc. Ouais. Et c'est nous qui avons conquis le pays. Et maintenant, vous êtes en train de mettre notre doubonne, de mettre nos sandales, de mettre nos kovatembel. Vous savez comment s'appelle le chapeau comme ça, de Napoléon à l'envers, qui a la place de la victoire, Kova Tempel, parce que c'est dans le temple, Tempel. Voilà, alors il y a le Kova Tempel, c'est de l'israélien, et le Kova Tempel. Et donc, le bicorne. Donc, vous nous avez volé notre identité. Donc, conflit. Donc, par exemple, l'histoire du Gush Katif, que vous connaissez. C'est-à-dire, cette espèce c'est insupportable de penser qu'en fin de compte, qui sommes-nous, nous, en tant que crise d'identité, puisque aujourd'hui, nous, on n'a pas ce langage, et du coup, on ne sait plus comment on fait ce genre de choses, on ne sait plus comment le transmettre à nos enfants, et d'ailleurs, nos enfants, dans le désarroi, souvent, ils vont chercher, dans le monde de la Torah, une réponse à ce point d'interrogation, comme, par exemple, la fille de Tremp, Nachon, qui a pris un Tremp, il a pris le truc sur le, etc., ou en Israël, tous les, c'est-à-dire, il y a un désarroi, il y a une recherche, mais il y a aussi un refus. Donc, conflit entre, aujourd'hui, on appelle ça la gauche et la droite en Israël, mais c'est entre une identité de sionisme religieux et une identité de sionisme religieux. Il y a l'autre côté, c'est le monde haredi, c'est-à-dire le monde qui est, on pourrait dire, on l'appelle ultra-orthodoxe, c'est religieux, qui dit quoi? Vous êtes en train de nous voler la religion. Parce que jusqu'à maintenant, on était tranquille, on faisait notre religion sans nationalisme. On pouvait être religieux, mettre notre filine, faire notre prière, étudier au collège, etc., faire tout, mais on n'avait pas besoin pour autant d'aller à l'armée, d'aller s'installer dans des endroits dangereux, de s'occuper de ce qui se passe sur le monde du temple, etc. C'était pas notre problème. Nous, on avait très bien compris que les histoires de nations, il y a les CRS en France, il y a la police, il y a la nation, ou bien il y a les sionistes laïcs qui s'en occupent, et nous, on s'occupe de notre monde. Mais en fin de compte, vous nous empêchez de dormir, puisque vous nous dites qu'on est obligé de relier les deux. Alors pourquoi c'est les deux, le côté de la même médaille? Parce que c'est là qu'on comprend que c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est pas seulement le fait que le Mashiach ben David est arrivé, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on va réussir à faire l'union, la tiferet, l'harmonie entre ces deux valeurs. Et quand on essaye de le faire, alors il y a toujours les deux côtés qui sont l'un sans l'autre, qui sont en train de se réveiller pour nous exprimer leur difficulté à pouvoir comprendre cette idée de l'unification des valeurs complémentaires. Alors je vais terminer de manière générale cette analyse. Bien entendu, ce que je voulais dire, et ça, Olivier l'a exprimé d'une manière différente, mais qui est aussi importante, c'est la place des Juifs en Galoute, en dehors d'Eretz Israël. Alors, on pourrait dire que jusqu'en 1967, nos problèmes, et pas de problème, pourquoi? Parce qu'en Israël, c'était la nation, et en dehors d'Israël, c'était l'identité religieuse. Alors, on était ou on n'était pas, mais en tout cas, qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, on savait que c'était ça notre identité. C'est-à-dire que tu vas à la synagogue ou que tu ne vas pas à la synagogue, tu sais que c'est à la synagogue que se trouve ton identité juive, c'est-à-dire la religion sans nation. Et depuis 48, il y avait un phénomène de nation sans religion, mais ça allait, c'est-à-dire on ne se sentait pas concerné en tant qu'identité juive en dehors d'Israël. Depuis 1967, il y a un grand problème. C'est-à-dire que l'identité religieuse authentique est revenu en Israël, donc qu'est-ce que tu fais en France? Et l'identité nationale d'être un Français de religion mosaïque est quelque chose de cadique, puisque tu as ton identité authentique nationale en tant qu'hébreu, pas seulement en tant que juif, qui se trouve en Israël. C'est-à-dire que tu... Je ne veux pas vous jeter la pierre, bien entendu, mais au niveau de l'analyse, il faut comprendre qu'il y a une crise d'identité aussi de qui sommes-nous, nous, juifs de Galoute, puisque... d'un certain point de vue, les deux valeurs sont revenues en Israël, et c'est ce qu'Olivier a très bien exprimé dans ses difficultés de l'identité de christianisme et de diaspora d'Israël et de diaspora donc chrétienne en milieu chrétienne. Maintenant, le dernier point sur lequel je vais terminer et qui, à mon sens, est extrêmement intéressant, c'est l'idée qu'on appelle dans la Kabbalah le Sitra Achara. Le Sitra Achara, c'est l'autre côté. C'est-à-dire que nos sages nous ont enseigné que chaque fois que se développe une valeur de sainteté, une valeur de Kedusha, alors automatiquement, pour préserver l'équilibre des forces dans le monde, se développe une force d'opposition qui s'appelle l'autre côté, c'est-à-dire le côté de l'impureté, qui est là dans le monde pour équilibrer les forces. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une loi comme ça, au nom de l'équilibre des forces, que plus il y a une force de sainteté qui se développe dans le monde, et plus il va se lever une force d'opposition, par exemple, l'identité palestinienne par rapport à l'identité sioniste. Vous savez, qui reprend les mêmes idées de la diaspora palestinienne, etc., de Jérusalem, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis 1967? Puisque notre retour est un retour à une identité religieuse, alors, le Sitra Achara, puisque nos discussions c'est avec l'islam, c'est que les Arabes deviennent religieux. Vous avez compris? C'est-à-dire que le retour au radicalisme islamique qui se passe dans le monde islamique, et qu'aujourd'hui on connaît, dans l'analyse des Occidentaux, c'est un conflit entre Orient et Occident. C'est-à-dire, c'est ce que vous entendrez tout le temps, les Occidentaux sont en colère contre les Orientaux, et les Orientaux sont en colère contre les Occidentaux. L'un, ça s'appelle le djihad, l'autre, ça s'appelle la culture et la civilisation occidentale, avec toutes ses valeurs morales, etc. Mais en tout cas, il y a un conflit évident, et c'est comme ça qu'il est analysé. D'après ce qu'on a vu aujourd'hui, selon le développement de l'enseignement de Manitou, il serait possible, je donne par point d'interrogation, qu'en fin de compte, tout ce réveil de l'islam en monde oriental, il commence sur le mont du Temple, sur Jérusalem et dans la Judée-Samarie ou en Israël de manière générale, parce que depuis qu'on est revenu sur ces endroits et qu'on est en train de récupérer ce lien entre la terre et l'identité religieuse, eh bien le Sitra Achara, c'est la force contraire, se réveille en disant, eh bien si eux sont religieux, si on veut réussir à donner une réponse à cette question de cette relation par rapport au Messie et cette relation vis-à-vis de la terre d'Israël et du processus messianique hébreu qui remet en question toutes ces civilisations, c'est-à-dire la civilisation d'Ishmael autant que la civilisation occidentale. Alors, au niveau d'Ishmael, il faut qu'on retourne à la Yeshiva et qu'on se mette au courant de ce qui se passe. Vous avez compris? C'est-à-dire que, en fin de compte, il faut une tension, puisqu'il y a un courant, donc il y a une tension, qui nous fasse qu'on retourne à nos sources, et à ce moment-là, peut-être qu'on aura la possibilité de vaincre ces Juifs qui nous ont conquérit notre terre à ce moment-là. Vous comprenez que c'est une analyse totalement différente de l'analyse classique des choses. Tout commence ici chez nous, à Jérusalem, sur le mont du Temple. Les Ragav, nous, on n'ose pas le dire, mais eux, ils se gênent pas pour le dire. C'est-à-dire que dans tous les discours musulmans, ils le disent clairement que c'est là que se trouve le conflit et que c'est là que se trouve le problème. Le problème, c'est que nous, on n'est pas prêts à l'entendre, parce que ça devrait nous obliger à nous remettre beaucoup plus sérieusement en question sur notre identité à nous. Mais eux, consciemment, ils le savent. Ce que je voudrais dire comme preuve de ça extrêmement intéressante, au niveau, je dirais presque sociologique des choses, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais leur chef, c'est-à-dire leur guide spirituel, il ressemble étrangement à des rabbanim. C'est-à-dire que, comment il s'appelle celui qui est au Liban? C'est Nasrallah, c'est ça? Ouais. Chaque fois que je vois Nasrallah, je suis fortement étonné. Je me dis, c'est un rachat gamour. C'est vraiment quelqu'un qui est dans les forces du mal. Mais quand on le regarde, si on lui mettait un autre Shtreimel sur la tête que celui qu'il a, mais plus ou moins le même et un habit de grand rabbin d'Israël, ce serait assez étrange de se dire qu'il ressemble étrangement au grand rabbin d'Israël. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est très simple. C'est la force du Sitra-Achra de l'autre côté. Nos sages nous disent que quand l'ange tutélaire d'Ésaü a combattu Yaakov, il ressemblait à un Talmid Chacham, à un sage. C'est-à-dire que dans ce combat, c'est un combat entre deux forces, mais ils se ressemblent étrangement, puisqu'ils cherchent à trouver leurs identités par rapport. Quand vous regardez Arafat, qui est celui d'avant 1967, c'était Che Guevara, c'est-à-dire c'était un révolutionnaire, comme nous, on était révolutionnaires à la marxiste, etc. Et puis depuis 1967, nous, on a nos rabbins, et eux, ils ont leur caddie pour aller au supermarché, et leurs imams, et de ce point de vue-là, c'est assez étrange de voir cette ressemblance entre les deux choses. Alors j'ai donné ça uniquement comme illustration de cette chose-là, mais pour bien comprendre que si l'équation ou l'analyse que je vous ai donnée, elle est pertinente, en fait, vous voyez qu'elle explique pas seulement les histoires entre Shalom Arshav et Gush Emunim en Israël, et on pourrait dire les querelles de clochers de notre petite communauté juive en Eretz Israël, mais elle porte sur des enjeux qui sont absolument internationaux dans le monde entier, et les enjeux essentiels de ce qu'on est en train de vivre dans le monde. Voilà. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a, dans la prière de tous les matins qu'on dit, juste avant le chemin, on dit comme ça. On dit « Baal milchamot matzmiach yeshuot ». C'est-à-dire que Dieu, c'est le maître des guerres et c'est celui qui fait naître les délivrances. Yeshuot, yeah. Il y a un petit passage entre les deux, mais Baal milchamot zorat tzedakot matzmiach yeshuot. C'est-à-dire que c'est le maître de la guerre, zorat tzedakot, c'est celui qui sème les justices et matzmiach yeshuot et qui fait pousser les libérations, c'est-à-dire les libérations, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et enfin, donc, comme on l'a dit, en 1948, on a eu une guerre qui nous a amené à une première Géoula, une première libération. Et la guerre de 67, d'après ce que je vous ai expliqué, l'impact de ce qu'on appelle Matzmiach Yeshuot, c'est-à-dire que ce qui est en train de pousser, Matzmiach, c'est ce qui est en train de pousser, comme on dit, et Tzemach David Avdecha Meratatzmiach, dans la prière, c'est qu'on demande que pousse la pousse de David, c'est-à-dire de Mashiach ben David, ce qui est en train de pousser en Israël et a fortiori dans le monde entier est quelque chose d'absolument incroyable. Ça pousse de plus en plus et on pourrait dire plutôt que c'est pas que ça pousse, c'est que Dieu il est en train de nous pousser. C'est-à-dire que c'est plutôt du pousse-pousse qu'il est en train de nous pousser avec notre volonté ou contre notre volonté dans la direction de ce qui doit être la direction messianique et dans l'ordre de l'avancement de ce qui est messianique, et que je dirais qu'en 1967, on était absolument incapable de se rendre compte des enjeux et des impacts incroyables de ce tsunami, de cette guerre qui a duré 6 jours, et qui aujourd'hui, 50 ans après, on commence avec cette analyse à se rendre compte de ce que ça a fait dans le peuple juif et dans le monde entier comme révolution, et sans doute qu'on n'a pas fini d'être étonné de tout cela. Alors je vais terminer justement en vous citant deux enseignements de Manitou quand la guerre des 6 jours est arrivée et qu'ils ont demandé à Rav Tzvi Yehuda, il raconte qu'ils sont allés chez Rav Tzvi Yehuda, son maître, Cook, et ils lui ont demandé « Est-ce que tu savais que ça allait arriver ?» Alors il dit que Rav Tzvi Yehuda a souri, il a dit « Oui ». On le savait. Pourquoi? On avait des enseignements qui nous enseignaient, on savait que ça devait arriver dans cette cohérence des connaissances. Et donc, il lui a demandé alors, dis-nous quelque chose. Alors, il a dit, deux enseignements, c'est des guématries. Vous savez ce que c'est la guématria? C'est des calculs. Alors, on termine. Je vous ai donné un enseignement qui était cohérent, logique. On peut terminer par la cerise qui est sur le gâteau. Alors, il y en a deux. Il lui a dit d'abord, c'est que, on sait qu'on est dans le sixième millénaire qui s'appelle le sixième jour et qu'à partir de midi, on passe à l'après-midi ce qui s'appelle Erev Shabbat. Vous savez très bien que la veille de Shabbat, c'est à partir du moment où on commence à s'exciter dans la cuisine pour préparer la dafina ou le tchoun, ça dépend chez qui on est. Et à ce moment-là, on appelle ça Erev Shabbat. Or, le mot Erev, en valeur numérique, c'est, ça fait 200, vous calculerez maintenant, je ne l'ai pas noté, mais en tout cas 272. Et si jamais on enlève des 6000 en 272, on arrive à 1968, c'est-à-dire le début de la période qui est juste après la guerre des 6 jours. C'est-à-dire que depuis 1967, on est rentré dans Erev Shabbat, dans la veille du Shabbat, c'est-à-dire un nouveau stade au niveau des temps messianiques. Et le deuxième, c'est que le deuxième verset de la Torah, c'est celui où on a marqué que la terre était au bohu, etc., et l'obscurité, « Veruach Elokim rachefet al penei hamayim » et l'Esprit de Dieu était en train de planer au-dessus de l'eau. Et nous disent nos sages, mais Ruach Elohim, Darucha Shel Meshicha, ça c'est l'esprit du Messie. Or le mot Merachefet a aussi comme valeur numérique, et c'est ça qu'avait transmis Rav Tsiouda à Manitou, tel que je l'ai entendu, c'est qu'il lui a dit, sache que le mot Merachefet, c'est-à-dire le moment où l'esprit du Messie va commencer à planer sur les eaux, le mot Merachefet a aussi comme valeur numérique 1968, c'est-à-dire juste après la guerre des six jours, et les étudiants à Paris, etc.
Donc, de Manitou en France.
Voilà, en plus, exactement. Et Manitou concluait, c'est comme ça que je conclus, qu'en fin de compte, les plus étonnés de ce qui arrivait, c'est pas ceux qui savaient pas, c'était que si, ceux qui savaient. Parce que ceux qui savaient, ils arrivaient pas à comprendre comment c'était possible que ce qu'ils savaient arrivait de manière tellement précise. Et donc, je vous invite, Bezrat Hashem, chacun, à se rallier à ce mouvement extraordinaire, à cette révolution qui a commencé au moment de la guerre des six jours de 1967, chacun selon ses capacités, ses volontés, ses pouvoirs et sa prédisposition, afin que le plus vite possible, la rédemption finale, la Géoula Shlema, arrive bimera biyamenu pour nous et le monde entier. Amen.